Get the brands you love at littlewoods.com. Whether you use it for studying or streaming, find the Asus Chromebook 11.6-inch in grey for just $199.99, all with inclusive delivery and free returns. Hurry, offer ends 25th of October. Own it. Shop now at littlewoods.com.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
Welcome, Silvino. Are you okay? And are you happy to be here?
I am very happy to be in the big club Tottenham.
Jusqu'à minuit, c'est l'after foot.
I want to win here, you know, before. And after that, we will see. Or we go to fish. Hein?
Nicolas Jamain.
Bonsoir à toutes et à tous. L'after est là, comme tous les soirs, jusqu'à minuit, à la radio sur RMC, à la télé sur RMC Sport News. L'after, la seule émission en France, en direct. 7 jours sur 7, casting du soir. Bonsoir, Jonathan McCarty. Costume 12 pièces ce soir.
Oui, salut les gars.
Bienvenue dans l'after du samedi soir. Ludovic Obraniak à mes côtés, salut Ludo.
Salut à tous. Petite info quand même, faut dire. Si Jonathan McCarty est un peu bizarre ce soir, ne vous étonnez pas.
Il a rencontré
le gars
idole.
Ne touche plus terre, il a interviewé une pointure du MMA. Le gars est rooftop, dernier étage, il vole, il touche plus terre.
Donc, pendant une heure.
Tu sais qu'en général, un rooftop, c'est un dernier étage.
C'est pas faux, ouais.
Ouais, mais bon, il y en a.
Pendant une heure, j'ai eu l'honneur d'interviewer aussi. Georges Saint-Pierre dans nos locaux.
C'est qui qui parle là?
Probablement un des plus grands combattants de l'histoire de l'UFC, Georges Saint-Pierre Namer. Donc il a passé une heure avec vous et ça retrouvait très bientôt sur le site internet, dans RMC Fighter Club et dans MMA Saver.
T'es fan de MMA, c'est une légende, c'est
pas mal.
Messieurs, au programme ce soir, bien sûr, le débrief de la 10e journée de Ligue 1 avec une info ce soir avant les matchs de demain. Lyon, 17e de Ligue 1. Lyon peut être, en cas de résultat demain, 19e de Ligue 1 après 10 journées. Ce serait incroyable. On en parle dans un instant, Ludo. Également, la première défaite d'Angers à domicile. La première victoire d'Antoine Kombouaré, nouveau coach à Toulouse et qui bat Lille de Buzyn, bien sûr. Et puis, une drôle de dame, Julien Laurence, pour revenir sur les chocs en première ligue. Fred Hermel pour le Real, qui est toujours mené 1-0 sur la pelouse de Majorque. Et la Bundesliga, avec notamment des nouvelles du Bayern Munich. Ces matchs et dans une dame très importante à 3 jours de la Ligue des Champions, la 3e journée de la phase de poule. Voilà, c'est parti pour l'after, messieurs. On est ensemble, bien sûr, jusqu'à minuit. Je vous propose qu'on démarre, messieurs, par la victoire d'Antoine Kombouaré ce soir. Et d'abord, vos 3 points avec toi, Jonathan. Tu commences.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Eh ben alors écoutez, le premier point, c'est la première de Rudy Garcia à Lyon. On a vu un Lyon qui a quand même pataugé un petit peu dans la semoule, 0-0, bien terne, bien triste, donc on va attendre pour l'effet Garcia. Le deuxième point, tu l'as dit, c'est la première défaite à domicile d'Angers, c'est quand même un petit événement. C'est une équipe qui est pas forcément ultra brillante, mais qui est très difficilement prenable chez elle, donc bravo à Brest. Et le troisième point, victoire d'Antoine Kombouaré. Je suis pas encore totalement convaincu par Toulouse, mais il faut dire que comptablement, c'est une victoire qui est importante face à un adversaire de qualité qui est Lille.
Ludo, tes 3 points.
Je me suis amusé pendant le match de Lyon à jouer un petit jeu qui s'appelait Si j'étais Rudy. Je crois que ce match est riche en enseignements pour un entraîneur qui vient d'arriver. Je crois qu'il y a beaucoup d'éléments de réponse dans ce match-là sur ce qui cloche clairement à l'Olympique Lyonnais. Mon deuxième point concernera Reims, qui se place ce soir à la 3e place et qui confirme. C'est ce qu'il y a de plus dur dans le football, donc j'aimerais les mettre en lumière. Et mon troisième point, sur une soirée qui a mis un peu de temps à se décanter,
oui,
faire la part belle aux gardiens, parce qu'ils sont aussi responsables de ça, aux jeunes Larsonneur et Diaz à Nîmes, qui ont sorti deux matchs de très haute volée.
Voilà messieurs, je vous rappelle les résultats de Ligue 1 ce soir, bien sûr, avec les victoires. La victoire effectivement de Toulouse, on en parle dans un instant, face à Lille de Buzyn. Toulouse qui aurait pu l'emporter 3-0, un deuxième pénalty manqué par Max Alain Gradel. Le succès de Reims face à Montpellier 1-0, Nîmes, Amiens 1 partout, Angers battu à domicile face à Brest 1-0, bien sûr, Metz s'impose 1-0 face à Nantes. On va parler d'Habib Diallo, meilleur buteur de Ligue 2, déjà 7 buts en 10 journées cette saison en Ligue 1, phénoménal. Le classement, et ça c'est important messieurs, parce que 10 journées, on peut déjà parler d'un premier bilan. 10 journées, on a fait le tiers, un peu moins du tiers du championnat. Un peu moins du quart du championnat. Le PSG en tête, 24 points. Nantes, deuxième, battu ce soir, 19 points. Reims, troisième de Ligue 1, 17 points. Angers, quatrième avec 16 points. Bordeaux, 15e, qui jouera demain face à l'Est, Saint-Etienne. Lille, 6e, 15 points, fait du surplace. Montpellier aussi, végète à la 7e place du classement, 14 points. Brest, 14e. Marseille, 9e, 13 points. Nice, 13 points également. On a Reims, Rennes, Amiens, Toulouse, 11, 12 et 13e avec 12 points. Metz, 14e avec 11 points. Saint-Etienne, 11 points. Lyon, 16e de Ligue 1, messieurs.
Ouais.
16e de Ligue 1, 10 petits points en 10 journées, 1 point par match, avec 1 point d'avance sur Monaco, premier relégable, un match en moins, et Strasbourg également, un match en moins. Si Monaco gagne demain, comme Strasbourg, 19e. Gagne demain, Lyon sera 19e de Ligue 1. Ce sera historique, évidemment. Supporters lyonnais, appelez-nous au 32-16. On va faire une grosse page, bien sûr, en Olympique lyonnais. La première de Rudy Garcia, le match nul face à Dijon. Comment Lyon peut s'en sortir? Appelez-nous au 32-16, le hashtag RMC Live, l'application Direct Studio également. Ludo, dis-moi.
Bah, une chose sur laquelle on peut tous s'accorder, c'est qu'on ne s'attendait pas à ce classement-là.
Ah bah non. Surtout
16e de Ligue 1, possiblement du 9e.
Non, mais même
surtout après
l'Olympique
Angers.
De Marseille, la S Saint-Etienne, Reims qui confirme, enfin c'est un Nantes. Championnat qui nous tient en haleine.
L'éternel débat, est-ce que ça veut dire que notre championnat est faible ou au contraire qu'il est redevenu compétitif?
Fred Hermel nous explique quand il y a des petits qui gagnent contre les gros en Liga, c'est que c'est...
Alors, les gars, on va pas forcément prendre la grille de lecture hermélienne. Fred a beaucoup de qualités, mais pour nous parler de la Liga et quand il analyse, peut-être qu'on va pas adapter sa grille de lecture à la Ligue 1. En tout cas, ce qu'on peut dire sur une analyse plus globale sur le début du championnat, c'est que ce premier quart de championnat nous montre surtout que c'est la défaillance des grosses équipes et que le niveau de la Ligue 1
Marseille,
va vers le bas.
Lyon, Monaco, Saint-Etienne.
Après, il y a deux choses. Le niveau de la Ligue 1, à mon sens, va vers le bas parce que les gros ne sont pas au rendez-vous. Mais on peut aussi dire qu'il y a pas mal de prétendues petites équipes, à l'instar de Reims, à l'instar de Nantes, qui sont quand même intéressants à voir jouer.
Bah donc, c'est la rébellion des petites équipes. Donc,
ouais, c'est ça. C'est ce que je viens de dire.
Ça
peut coïncider avec le fait que dans notre championnat, n'est pas si bidon que ça.
Ludo, on peut pas non plus mettre en place que les gros soient pas là.
On peut l'interpréter de deux façons. C'est-à-dire que soit les gros sont pas là et on dit que notre championnat est nul, et on peut dire aussi que les petits commencent à rehausser le niveau. Donc tu vois, on peut le prendre de.
Je pense que c'est les deux.
On peut le prendre par les deux.
Non, c'est les deux.
On n'a jamais la réponse à ça.
Est-ce que ça serait pas une moyennisation du niveau général de la Ligue 1 à laquelle on assiste?
Évidemment, hégémonisation.
C'est surtout homogénéisation.
C'est ça.
La question qui se pose, c'est surtout comment sont gérés les gros clubs.
Exactement.
Les gens qui sont en place et qui.
Il y a juste un double travail, les gars. Les petits qui bossent bien et les gros qui bossent moins bien.
C'est ce que je t'explique.
Exactement. Toulouse-Lille. Victoire toulousaine qui fait du bien, on le rappelle. Alain Casanova a trouvé un commun accord pour séparer du TFC avant la trêve internationale. Antoine Kombouaré est arrivé. Toulouse recevait Lille, 5e de Ligue 1. Toulouse s'est imposé 2-1 grâce à Yaya Sanogo à la 58e et Max Alain Gradel à la 66e qui va manquer un penalty. Le but du 3-0 à la 93e. José Fonte permet à Lille de réduire l'écart pour un score final donc de 2-1. Toulouse résolument offensif, étonnamment offensif quand on connaît, c'est vrai, on le dit, Antoine Kombouaré, qui est un des coachs français qui bétonne en général.
Non, mais alors qui bétonne en général, je sais pas, mais en tout cas, au vu de sa première conférence de presse, on pouvait s'attendre à ce que Toulouse soit un peu plus sur la défensive. Or, il nous a totalement bluffé sur ce match puisqu'il décide de jouer avec deux attaquants. Alors, pour ma part, je trouve que c'est une réelle avancée. Après, je trouve aussi qu'il a la chance que Wesley Saïd se blesse et qu'il fait rentrer Yaya Sanogo et qu'il change totalement la physionomie du match, puisque l'association Sanogo-Koulouris a parfaitement fonctionné puisqu'ils sont très complémentaires, et que le fait de revenir avec Max Alain Gradel sur le côté gauche qui rentre sur son pied droit était beaucoup plus conforme pour le TFC pour qu'il performe sur le plan offensif. Donc j'étais assez séduit par sa compo de départ sur le système, un peu moins dans le choix, dans le placement des hommes. Mais le fait que Wesley Saïd se blesse, il a pu restructurer son attaque, et je dois dire que ça a plutôt bien fonctionné.
C'est ça, hein.
Notamment avec un William Vainqueur bien plus convaincant que non, on a pu le voir.
On a un jeu de mots, quoi. Là,
ouais, ouais.
Tu m'as regardé.
Bien plus convaincant.
Bill Winner. J'ai connu à Nantes. On l'appelait Bill Winner, William Vainqueur.
Allez. Non, il a fait un gros match. Et alors après, est-ce que Toulouse a été bon? Oui. Mais est-ce que LOSC a été affreux ce soir?
Aussi.
Aussi.
On va parler de Lille, c'est intéressant.
Et ça commence à devenir un peu récurrent à l'extérieur.
Et presque inquiétant.
Ludo, tu l'as bien dit, c'est la conjonction de deux phénomènes. C'est que Lille, à mon avis, a déjà la tête un petit peu aux échéances qui vont se profiler dans la semaine. Après, sur la compo de départ, sur le système, oui, c'est intéressant. Je pense que Koulouris sera peut-être sûrement encore meilleur si on lui adjoint quelqu'un à la pointe de l'attaque toulousaine.
Sanogo, c'est un parfait
complément. Mais après, tu l'as dit, la blessure de Seid change tout. Et le TFC affiche un tout autre visage. Alors, on a parlé beaucoup de l'arrivée d'Antoine Camboré au TFC. On était assez sceptique. On est toujours sceptique, mais il faut dire que là, sur ce premier match de Toulouse avec Camboré sur le banc, il y a quand même quelque chose qui nous fait penser que est-ce que c'est le fameux choc psychologique, parce qu'on le connaît, Camboré. Est-ce que c'est
la
motivation qui donne aux joueurs? Est-ce que c'est vraiment une vraie nouveauté tactique?
C'est un leader aussi d'homme, Camboré.
C'est intéressant ce qu'on a dit.
À mettre à son crédit le retour de Dosevi, parce que c'est une aberration que ce joueur ne figure pas dans les plans, et le fait que tu as un joueur d'aile comme Mathieu Dosevi avec sa qualité de centre, du coup le choix Sanogo aurait dû s'imposer, puisque c'est le garçon qui, quand même, dans la surface de réparation, on l'a vu sur son retourné lorsqu'il est au duel avec José Font,
oui.
C'est un garçon qui, dans la surface, a de réels atouts sur les ballons aériens.
Mais il y a quelque chose qui est intéressant à faire, c'est le parallèle entre la première de Rudy Garcia et la première d'Antoine Camboré, toute proportion gardée. C'est que d'un côté t'as un entraîneur qui fait Rudy Garcia, qui fait des choix un petit peu curieux et un petit peu démagogique à l'image de l'entrée de Ryan Cherki,
un petit peu frileux.
Un petit peu frileux aussi. Et t'as un autre entraîneur qui a l'air d'être ultra motivé, qui arrive, qui tente des choses, pas forcément très juste dans sa composition de départ, mais avec beaucoup de bonnes intentions dans le changement de système. Et au final, ça paye, ça fait une victoire qui leur fait beaucoup de bien contre une équipe de Ligue qui est quand même une des grosses équipes du championnat.
Et Younes, supporter du TFC, nous a appelé.
Younes,
habitué de l'after.
Salut Nico, salut Ludo, salut Joe.
On t'accueille toujours avec.
Vite fait, vas-y. On est en Ligue 1, on a envie d'y rester. Ça, c'est pour la
Younes, voilà. Je viens de passer. C'est une heure avec JSP, ça te parle ou pas?
Hein?
Je viens de passer une heure avec Georges Saint-Pierre, ouais. Ça te parle ou pas? Non mais Younes, je le connais.
Mais oui, on s'en fout.
Avec qui?
Georges Saint-Pierre.
Ah d'accord, oui, je connais, oui.
Ah oui.
Ok, Younes, tu sors
alors,
du stade.
Pour parler football.
Voilà, merci de recadrer Younes.
On a vu un changement. Le changement est simple. Bon, déjà la compo, déjà il a sorti Moreira qui n'a rien à faire sur un terrain de Ligue 1. Déjà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de l'envie. Nous, à la fin du match, on a vu les mecs, ils étaient cramés, ils étaient morts. Diakité qui se blesse en début de match. Ça c'est les mecs, ils ont tout donné à l'entraînement cette semaine. Il paraîtrait qu'à l'entraînement cette semaine, il leur a demandé de lever le pied parce que les mecs, ils allaient trop au contact. Mais à mon avis, il devait y avoir un problème avec Casanova. Les mecs l'ont lâché. Tout simplement parce qu'ils en avaient marre de lui. Le mec confort. Avec le staff, il s'entendait pas avec les joueurs. Vous critiquez Camboré et j'étais le premier à être sceptique moi aussi, honnêtement. Et c'est pas juste avec un match avec 90 minutes que je vais changer d'avis. Mais nous, on s'est tapé Casanova pendant 10 ans. Donc 10 ans de Casanova, à un moment donné, c'est plus possible. On est le TFC, on va pas recruter Guardiola ou Allegri. Donc Camboré, beaucoup plus prouvé. On va dire que quand il était à Valenciennes et au PSG, on va dire que Casanova. Donc pour nous, ça peut être qu'un bien. C'est souvent un meneur d'hommes, etc. Déjà, il te fait un changement. Déjà, il te met en 4-4-2. Donc tu te mets deux attaquants. Il te permet d'avoir Saïd sur la gauche. Et bon, après il s'est blessé, mais il te permet d'avoir des mecs qui peuvent centrer comme Dosevi qui faisait banquette avec Casanova. Ça, c'est pas normal.
C'est pas
normal que Dosevi. Il fait son meilleur match. Et c'est la première fois qu'on gagne un match où on mérite de le gagner, parce que les deux victoires à domicile qu'on fait contre je crois que c'était Brest et Dijon, en première mi-temps on doit perdre 1-2-0 et on arrive à gagner le match en deuxième mi-temps, à se réveiller. Donc déjà c'est un gros plus. Moi je te dis, à la fin du match, les mecs ils étaient tous par terre. Ils étaient tous crevés, et rien qu'à ça, même si on n'avait pas gagné le match, on aurait été content.
Et ça,
on aurait été
content
parce qu'on
aurait vu
des mecs
encore,
qui se sont arrachés rien qu'à l'envie. Donc c'est fou quand même. Juste l'envie. L'envie, ça donne la différence.
Ludo, Younes, juste pour recadrer un petit peu les choses. Antoine Camboré est un homme respecté et respectable. Jamais il n'a été remis en cause ici sa carrière d'entraîneur ni sa carrière de joueur. On a évoqué simplement la situation du TFC.
Ouais.
Moi, en l'occurrence, j'ai évoqué le fait qu'il fallait un électrochoc à cette équipe. Et je pensais. Et je pensais que Antoine Camboré, ses méthodes de on est solide, comme il l'a évoqué lors de sa conférence de presse, était un peu dépassé, que les joueurs avaient peut-être besoin d'autre chose. Voilà, c'est ce que j'ai mis. Et après, j'ai été agréablement surpris de voir qu'il nous propose une composition à deux attaquants, qui réintègre Dosevi, qui redonne de la confiance à William Vainqueur, que dans l'envie, c'était l'envie d'aller de défendre en avançant. Voilà, ça c'est des arguments. C'est des arguments qui donnent envie. Mais après la conférence de presse...
Il a remis Amiens à son poste. Quand on voit que Casanova mettait Amiens dans l'axe, et Moreira à droite, alors que c'est l'inverse au niveau des postes de formation, c'est-à-dire qu'Amiens est latéral droit et que Moreira est formé dans l'axe, donc et déjà on se disait qu'il y avait un problème. Et Amiens à droite, c'est son poste, c'est un super joueur, c'est un petit jeune, tu vois, qui sait jouer. Et après il a fait rentrer Goncalves suite à la blessure de Diakité, et franchement il a pas été mauvais, le gamin le pauvre, il avait été aligné par Casanova sur une défense à 8 contre le PSG. Le gamin, il provoque un pénalty, il met un but contre son camp.
Younes, si tu me laisses finir, Ludo. Juste pour terminer, donc tout ça est particulièrement louable. Et on le signale, on l'a signalé en préambule avant de t'avoir sur les ondes. Après, force est de constater aussi que le système était plaisant. Le choix des hommes, on va dire que c'est un petit coup de peau qui fait basculer le match, et la rentrée de Yaya Sanogo. On va pas se mentir là-dessus. Le fait d'avoir Wesley Saïd, qu'il a connu à Dijon, et de le mettre à gauche, c'est pas, et Gradel dans l'axe, c'est pas la meilleure des idées, sur le choix des hommes.
Surtout
non
que
plus.
Max Alain Gradel, c'est ton meilleur joueur.
On peut aussi estimer que les choses ont tourné un peu en sa faveur. Bien, mais bon,
je te dis pas le contraire, mais avec Casanova, après, on sait pas avec Saïd ce que ça aurait donné sur le reste du match. Ouais. Mais c'est vrai que l'apport de Sanogo dans l'axe a été mieux avec Gradel à gauche.
Mais surtout quand t'as Dosevi pour mettre descendre.
Il a osé mettre les quatre joueurs quand même.
Bien sûr.
Alors que Younes, sous Casanova, t'avais Dosevi qui faisait banquette.
Et Younes, on le salue, Younes. On le salue.
Younes, tiens, reste avec nous deux secondes. Cette stat, Max Alain Gradel a marqué ce soir. Il a marqué sur penalty. Ouais. Il aurait pu mettre un doublé sur penalty.
Il a joué à cloche.
Il a joué à cloche sur le deuxième.
Sa course d'élan, elle est incroyable. Voilà, à cloche-pied. Ouais. Bon, il est un peu vendangé. Mais il y a une vraie récurrence chez Max-Alain Gradel qui tire beaucoup de pénalty. Son ratio carrière sur pénalty, 26 pénalty tentés, 8 manqués.
Ouais, mais bon,
on est sur quasiment 30% de pénalty manqués.
Je trouve que c'est
ce soir sur les 50%, évidemment. Non, mais c'est
un,
énorme.
C'est un garçon couillu, il est capitaine, il prend ses responsabilités.
Ouais, mais bon,
ça, le premier, il le met de justesse, mais il le met, ça débloque le match. Je peux te dire que quand tu rates beaucoup de pénalty comme ça, faut avoir du caractère pour le prendre le ballon. Mais après, c'est le capitaine, c'est le leader de cette équipe. Il doit montrer l'exemple. Je trouve ça plutôt. Moi, ça me gêne pas.
Le ballon, on va dire quoi ?
Moi, ça me gêne pas.
Mais t'as raison. Mais ce qu'il faut dire sur Max-Alain Gradel, c'est que c'est votre meilleur joueur. Il n'y a pas de contestation possible là-dessus. Et je pense que le salut de Toulouse passera par le fait de le mettre dans les meilleures dispositions possibles. Et son poste, c'est pas dans l'axe. Okay. C'est côté gauche.
Mais il n'y a pas de
doute possible à avoir là-dessus.
L'apport de Koulouris aussi. Koulouris, c'est une vraie bonne pioche, à mettre à l'actif des dirigeants toulousains.
À deux devant, je trouve qu'il donnera plus de mesures que ce qu'il donnait à
l'autre. Il est bluffant, ce joueur, et il est parfaitement complémentaire de Sanogo.
Exactement.
Merci, Younes, un autre coup à rajouter. Très cool.
Avant de partir, parce que j'ai mon voisin et mon fils qui m'attendent dans la voiture, je veux faire un bonjour à tout le club de Seyss Frouzens. Ils sont tous dans la voiture en train d'écouter.
Très bien.
Et tout le club du RC Muret. Et un gros bisou à mon fils qui a mis un super coup franc dans la lucarne ce matin. Voilà.
On t'embrasse. Il s'appelle Appel Ludovic, ton fils, non?
Hein?
Il s'appelle Appel Ludovic, ton fils, non?
Non, il s'appelle Yacine. Il a une belle patte droite.
Magnifique. Il s'appelle Appel Gauche Ludo.
Personne n'est
bonne soirée, Younes.
Personne n'est parti.
Bien sûr, Paul nous appelait, supporter du LOSC comme Ludovic Obraniak. Salut Paul.
Salut Ludo.
Salut Paul.
Bon, parle-nous de ton sentiment après cette défaite de Lille. Hein. C'est vrai qu'on a du mal à reconnaître les Lillois. Et d'ailleurs, on va parler également de deux hommes à Lille qui ont disparu. Les deux Jonathan, Bamba et Ikoné.
Ouais. Et d'un qui manquait ce soir, qui on loue aussi ses performances depuis le début, mais
Benjamin André.
Il a cruellement manqué ce soir.
Vas-y Paul.
Bah en fait, enfin, vous venez juste de résumer mon propos, c'est que genre déjà de 1, je commence un petit peu à en avoir marre de voir le LOSC jouer comme ça à l'extérieur. Genre vraiment, ça commence un peu à casser les bonbons, si vous voyez ce que je veux dire.
Bien sûr, oui, on voit.
C'est pas le premier match qu'on voit comme ça à l'extérieur. C'est pas le premier match où on voit le LOSC disparaître, se liquéfier comme ça à l'extérieur. Mmh. Ok, je veux bien, au début, il y a eu du turnover, il y a eu du recrutement. Voilà, t'essayes de prendre tes marques. Je veux bien, ok, les 2-3 premiers matchs à l'extérieur, tu essaies de prendre tes marques. Mais genre là, contre Toulouse, 18e, qui qui a changé d'entraîneur, qui prend Camboiré, le mec a joué le maintien avec deux équipes l'an dernier, tu prends 2-1 sans avoir rien montré, mais c'est indigent, mais c'est scandaleux, c'est juste scandaleux. Et genre deuxième chose, excusez-moi, je m'énerve un peu parce que genre j'aime pas avoir mon équipe comme ça. Deuxième chose, genre le milieu de terrain, Sheka Soumaoro, genre les mecs ont même pas joué. Et troisième chose, Bamba Ikoné, enfin quand est-ce qu'ils reviennent sur le terrain?
Exactement.
Quand est-ce qu'ils reviennent sur le terrain? Genre Bamba Ikoné, moi je les adore. Vraiment, c'est des mecs que je trouve incroyables. Ikoné, quand il vient en équipe de France, le mec donne tout. Et genre vraiment, c'est un mec que j'aime beaucoup. Genre moi, c'est le mec que j'ai choisi pour floquer mon maillot. Mais putain, ils reviennent quand sur le terrain au LOSC? Ils reviennent quand?
Ah, t'as pas tort, parce que c'est vrai que depuis le début de la saison, quand même, ce qui faisait la force du LOSC.
Ils sont absents depuis le début de la saison, John.
Ce qui faisait la force du LOSC l'an dernier, c'était cette verticalité offensive que pouvait présenter ce trio avec Bamba, Ikoné et Pépé. Ouais. Et là, très franchement, depuis le début de la saison, alors il y a Osimhen qui est un petit peu l'arbre qui cache
les gars,
offensivement.
Bamba, Ikoné cette saison.
Mais
Bamba, Ikoné cette saison, les gars, un but chacun.
Mais c'est même pas en fait en termes de stats que
non,
ça me dérange.
Non, mais ça compte quand même. Ça compte, et
mais
en,
c'est pas forcément en termes de stats. Mais ce qui me dérange, c'est dans l'attitude et c'est dans le manque d'investissement. Parce que l'année dernière, ce qu'on pouvait dire quand on parlait de Bamba et d'Ikoné, c'était on met en avant cette capacité à répéter les efforts vers l'avant. Que ce soit en phase défensive avec un pressing qui est harcelé, étouffé la seconde relance adverse, et ou que ce soit en phase offensive où ça allait à 1000 à l'heure. Là, très franchement, tu te dis, est-ce que c'est un contre-coup physique? Est-ce que c'est une question de motivation? C'est très très dur à comprendre.
Ludo. Bah, beaucoup de choses arrivent. Moi, je suis un
Lillois.
Je suis assez admiratif de ce que fait Jonathan Ikoné depuis qu'il est arrivé au LOSC. Force est de constater qu'il est arrivé beaucoup de choses à ce garçon en très peu de temps, et notamment la sélection en équipe de France.
Et un but au Stade de France.
Et je dois dire que sa relation avec Nicolas Pépé n'est pas aussi intéressante pour le moment qu'avec Osimhen. Ils ont un peu de mal à se trouver. Ils ont du mal à se trouver les deux. Ça viendra. Enfin, peut-être pas, parce que Osimhen est déjà annoncé partant, donc il faudrait déjà créer une relation avec le remplaçant d'Osimhen.
Attends, je te coupe, mais le remplaçant de Pépé ce soir, poste pour poste, c'est Araújo, et le remplaçant est Osimhen, et le remplaçant de Léao.
Donc on est dans une autre configuration, c'est-à-dire qu'Araújo, même si c'est un garçon, il demande beaucoup le ballon dans les pieds, malgré sa justesse technique. Donc il connaît à moins, disons, d'opportunités de lancer des garçons dans la profondeur, même si Osimhen va à 2000 à l'heure et qu'il
les
appels en profondeur.
C'est pas pareil que Léao.
Donc oui, j'attends beaucoup plus de ce garçon. On regardait ses stats à la mi-temps, 16 ballons touchés, 7 ballons perdus. Je ne retrouve plus cette niaque, alors peut-être qu'aussi l'usure,
relâchement inconscient, peut-être.
La Ligue des Champions aussi, hein, ça il faut pas l'occulter, ce qui arrive au LOSC. Est-ce que ce sont des garçons qui,
les gars, c'est un peu tôt quand même.
Est-ce que ce sont des garçons qui peuvent répéter les matchs de haut niveau? Ils sont en plein dedans. Vas-y.
Si je peux juste me permettre.
Dis-moi.
Honnêtement, j'entends l'argument de la Ligue des Champions, de l'équipe de France, notamment pour Ikoné. À un moment, faut aussi à tête se mentir. Ikoné et Bamba, que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue 1, ils sont pas transcendants.
Ah non, pas cette année.
Donc à un moment, honnêtement,
Ikoné, je suis pas trop d'accord avec toi. Autant Jonathan Bamba, je suis à 100% avec toi. C'est vrai que c'est son cousin qui joue depuis le début de la saison. Jonathan Ikoné, je trouve que depuis sa sélection, on a du mal à le retrouver. Mais je trouve qu'il a fait un début de saison qui est, par rapport à ce qu'on avait vu de lui la saison dernière, c'est vrai qu'il y a une déception. Parce qu'il n'est pas au niveau de la fin de la saison dernière.
Tout simplement, il a moins de mouvements autour de lui. Ce
aussi,
qui fait que ça
aussi,
limite ses possibilités aussi, de passe et ses possibilités d'avoir.
Mais lui doit faire mieux individuellement, faire mieux.
Merci Paul, le 32-16, on n'a plus le temps, désolé.
Salut Paul.
Tu rappelles quand tu veux dans l'after, bien sûr. Excellente soirée à toi. Lille qui recevra Valence avec des champions. Ce sera mercredi soir à 21h sur RMC Sport 2. Et après, il y aura Lille à réception. Bordeaux, le déplacement à Marseille, le déplacement à Valence, encore avec des champions, il va falloir se réveiller. Côté Lillois, l'after revient dans un instant, bien sûr, on débrief également le match nul de Lyon. Lyon est 16e de Ligue 1 ce soir. Après 10 journées, Lyon peut glisser la 19e place si notamment Strasbourg gagne demain. On revient dans un instant, Fred Armel sera là aussi avec nous. Le Real est toujours mené sur la pelouse de Mallorca. À tout de suite.
RMC, l'after foot, Nicolas Jamain.
Oui, l'after est là comme tous les soirs jusqu'à minuit. Ce soir, toujours à mes côtés, Jonathan Macardy, Ludovic Obraniak. On déroule dans un instant. On parle du coup d'arrêt pour les Nantais de Christian Gourcuff et également du coup d'arrêt pour Angers à domicile face à Brest. Mais d'abord le rugby. La Rochelle Racing 92, Nico Palancy.
Il reste 45 secondes. Salut l'after. Et salut, c'est Nico. La Rochelle qui est devant 12-6. Ça a été un match très compliqué. Hein. Beaucoup de pluie, que des coups de pied. Mais là, les Racingmen, ils ont un dernier ballon peut-être pour aller contester cette victoire rochelaise et ils vont récupérer une pénalité alors qu'il reste 30 secondes dans le temps réglementaire. Une pénalité à, allez, on est à 15 mètres de la ligne d'en but, donc je pense qu'ils vont redemander une mêlée. On va continuer d'affronter les avants rochelais. Il reste 20 secondes, 12 pour la Rochelle, 6 pour le Racing.
Merci Nico.
Nico, attends. Mais oui. Les gars, c'est une rediff ce match, non?
Non.
Mais pourtant, il y a la Coupe du Monde en même temps. C'est normal qu'il y ait un match championnat.
C'est des génies. Mais ça permet de révéler des tas de joueurs.
Exactement.
Les petits jeunes français, des centres de formation qui jouent pas trop quand les tauliers sont là.
C'est des génies.
Merci. La vraie réponse de Nico Palancy. Voilà, d'un rageux du foot contre le rugby. C'est le rageux, c'est évidemment Jonathan Macardy. Allez, on avance, messieurs. Supporter nantais, appelez nous 32-16 également. Supporter angevin aussi, messin ou brestois. On va débriefer ces matchs. La victoire du FC Metz qui va faire du bien face à Nantes ce soir, à la 87e minute de jeu. Ludo, tu l'avais annoncé. T'as pas pris un risque fou non plus. Hein. Habib Diallo, il en était à 6 buts avant cette journée. Il a mis son 7e but ce soir.
Pas le dire, hein, mais c'est
Nantes réduit à 10 contre 11 à la 62e.
Ludo, il était dans une vibe
de
Messine. Ludo depuis 48 heures.
Dans une spirale plutôt négative, donc c'était pas. Et à l'inverse, Nantes marchait sur l'eau, donc c'était pas évident de pronostiquer, pas si évident que ça, de pronostiquer la victoire de Metz. Mais quand j'ai vu la compo de Vincent Ognon, et pour l'avoir rencontré à la dernière trêve internationale, j'étais persuadé que les Messins allaient mettre énormément d'intensité dans ce match-là. Après, forcé aussi de constater que Nantes, il est à noter les absences, notamment en défense, de deux joueurs majeurs de lui et Nantes, forcé de constater que cette équipe s'appuie sur une défense hyper solide depuis l'arrivée de Christian Gourcuff pour justement pouvoir se projeter vers l'avant. Or, ce soir, la défense avec Moutoussamy à gauche et Wagué dans l'axe, c'est pas Palois et puis le titulaire habituel à la gauche, je sais plus.
Fabio.
Fabio
était absent.
Et donc Nantes voilà a souffert parce que défensivement ils ont été et en plus le fait que Vincent Ognon avait décidé de jouer l'offensive avec une compo composée de Gakpa, de Boulaya, d'Ambrose, enfin voilà, bravo à lui, ça va leur donner un peu d'air. Ils auraient mérité de gagner le match contre Toulouse, ils se sont fait rejoindre. Ils ont souffert un peu en fin de match, sûrement les stigmates de ce match-là, mais voilà, victoire très importante et un Habib Diallo phénoménal, irremplaçable.
7 buts, on en parle.
C'est homme providentiel, meilleur buteur de Ligue 1, je crois.
Avec Osimhen.
Mais Attends, deux secondes,
c'est fini rugby. Jonathan, je donne la parole. Nico Palancy, c'est terminé entre le Racing et la Rochelle.
Ouais, que ce fut dire pour les Rochelais, mais la victoire de la Rochelle, 12-6. Les Racingmen ont eu un dernier ballon, un groupé pénétrant à 5 mètres de la ligne d'en but. Finalement, la défense rochelaise a réussi à gratter, à venir contester ce ballon. Du coup, victoire de la Rochelle qui replace les Rochelais à la 4ème place du top 14. Le Racing est 13ème.
Bonne soirée à toi, Nico. Retour à Bordeaux, effectivement. Alors, messieurs, Habib Diallo, meilleur buteur de Ligue 2.
Mais attends, juste, ce qui est surtout hyper marquant chez Metz, c'est qu'en fait, ils ont une densité physique par rapport aux autres équipes de Ligue 1 qui est quand même assez impressionnante. Quand tu regardes la composition d'équipe, que tu regardes cette équipe jouer, ils dégagent un phénomène de puissance. Alors, ce qui fait que parfois ça ne fonctionne pas, c'est parce que parfois ça reste un petit peu sommaire dans le plan de jeu. Mais quand tu es face à une équipe qui, ce soir, comme Nantes ce soir, qui n'a pas fait forcément un bon match et qui est quand même... je pense pas que ce soit l'équipe la plus physique de Ligue 1. Tu regardes certains gabarits qui sont certes très forts dans la répétition des efforts, mais dans les duels qui sont pas les meilleurs. Metz ressemble dans ce genre d'affrontement à une sorte de rouleau compresseur, et c'est ça qui est assez impressionnant.
Ils ont aussi deux joueurs là qui arrivent sur le devant de la scène, c'est Endoram
très bon ce soir,
qui a été excellent à la récupération, Kevin, ouais. Et Adama Traoré. Alors son physique parle pas forcément pour lui, mais c'est un garçon particulièrement doué et ce soir il a montré l'étendue de ses qualités. Après la rentrée aussi de Boulaya, on attend beaucoup du côté de Metz de ce garçon-là parce qu'il est talentueux, trop souvent décrié comme un joueur de salon, parce qu'il a tendance parfois à briller par son irrégularité. Voilà, c'est comme ça qu'on l'attend. Il rentre en jeu, il est décisif, c'est lui qui apporte la passe décisive. C'est ce qu'attend Vincent Ognon de tous ces joueurs-là, et de Gakpa aussi, même s'il est encore un peu jeune.
JLK nous dit sur l'application Direct Studio RMC Sport. Bonsoir Ludo, donc le formateur a gagné ce soir dans un triste match contre un triste second du championnat. On parle du FC Nantes dans un instant avec Clément qui nous a appelé au 32-16.
Je trouve pas, je partage pas cette analyse. Je trouve pas que Nantes était un triste deuxième avant ce match-là.
Non.
Nantes n'a rien proposé ce soir, mais je trouve que Metz a fait le match qu'il fallait.
Les gars, on va être un petit peu lucide. On adore Christian Gourcuff, on est les premiers à vanter ses louanges.
Nantes avait gagné 3-0 avant ce match.
Voilà, c'est ça.
C'était quand même fragile comme équilibre.
Ce qu'on loue chez le FC Nantes, c'est ce que les bribes de ce qu'on peut voir, c'est le potentiel. On se dit, ça commence à se mettre en place avec pas beaucoup de moyens, avec des joueurs sont tout assez limités. On sent un état d'esprit, on sent le plan de jeu de Christian Gourcuff, mais il faut bien avouer qu'une équipe qui est juste un projet en construction, qui est deuxième de la Ligue 1, c'est quand même un point d'interrogation qui, voilà, c'est quand même un peu curieux.
Il y a aussi rien enlevé au début de saison.
J'aurais pas pensé le dire un jour, mais force est de constater que l'absence de Palois ce soir, elle est carrément préjudiciable.
La charnière marche bien,
la paire avec Giroto,
oui, c'est Wagué n'est pas Palois ou Giroto. Wagué avait débuté cette saison pas au niveau, ils l'ont mis sur le banc directement, il revient ce soir, il est pas bon, il est expulsé en plus.
Et comme ils sont très solides et qu'ils ont une capacité même Palois qui maintenant fait des relances entre les lignes,
c'est surtout Giroto, qui apporte une très belle relance.
Ce soir, il y a manqué de ça, c'est-à-dire qu'il y a manqué de
mais en fait, Ludo, ce qui s'est passé, c'est que comme Giroto est moins sûr avec Wagué, Giroto a pu prendre moins de risques dans sa relance. Parce que quand on regarde les matchs du FC Nantes, Giroto est à la base de beaucoup de constructions, beaucoup d'actions, beaucoup de lancements de première relance. Là, il était plus obligé d'aller combrer les brèches et les erreurs de placement de Wagué, et ça l'a empêché, voilà, de servir de première rampe de lancement.
Habib Diallo, messieurs, deuxième meilleur buteur de Ligue 2 la saison dernière, 26 buts en 37 matchs, cette saison, 10 buts, 10 matchs, 7 buts. Il est à 33 buts sur 47 matchs. Habib Diallo. Et c'est pour transition ça. Pas toujours évidente, on en parlait tout à l'heure ensemble. Pas simple la transition Ligue 1. On a des exemples, multiples de buteurs en Ligue 2 qui n'arrivent pas en Ligue 1.
Gaëtan Charbonnier.
Bozok également, avec Nîmes.
Il est à combien de buts, Gaëtan, là, depuis le début de la saison?
Pas une colle, là. Il doit être à 2 buts, je crois. 3 buts.
Ouais. Voilà. Humid Bozok, là, qui est retourné en Ligue 2. Non, oui, après, ce qu'il faut dire, c'est que Diallo, par rapport aux joueurs dont on parle, à savoir Charbonnier ou Bozok, il a le petit facteur qui fait que son adaptation en Ligue 1 laissez moins de doutes que les deux autres joueurs. C'est que physiquement, il est très présent. La Ligue 1, on peut en dire ce qu'on en veut, mais physiquement, c'est un championnat qui est très dur dans les duels. T'as toujours des
joueurs sont bien resserrés. Rude, c'est physique.
Et Habib Diallo a cette capacité à affronter l'impact, à mettre de l'impact, à peser sur les charnières adverses. Et du coup, après, quand tu fais parler de sa puissance physique, c'est quand même un attaquant qui est somme toute assez adroit. Donc, ça me surprend un petit peu moins. Tu sais quoi? À la fin de la Ligue 2 de l'année dernière, si on m'avait dit qui va mieux le réussir en Ligue 1 entre Diallo et Charbonnier, c'était sûr que c'était Diallo. Même si Gaëtan Charbonnier ressemble plus au prototype de joueur qu'on adore.
Quand on parle d'identification, Habib Diallo symbolise très bien ce qu'incarne le FC Metz, le club familial. Le garçon est un garçon particulièrement attaché au club. Je trouve ça judicieux de lui avoir donné le brassard de capitaine. Il le mérite amplement. Il nous manquait d'un joueur comme ça depuis un moment à Metz, joueur un peu symbole. Et les occasions, il se les crée lui, hein. C'est-à-dire que c'est pas des buts où il a plus qu'à pousser le ballon, même si ce soir
il bénéficie
d'une galette de Boulaya, mais force est de constater. Pourtant, on n'aurait pas mis une pièce sur lui. Au passage, Ligue 2, Ligue 1, je suis pas sûr que beaucoup auraient misé sur lui
On pouvait croire
qu'il allait.
Ah, on en a parlé cet été, si, quand même.
Mais à ce niveau-là, je l'attendais pas.
Il a quand même Clément, toutes les caractéristiques du bon attaquant.
32-16, supporter du FC Nantes. Clément nous a appelé. Salut, Clément.
Salut, bonsoir.
Salut, Clément. Triste voix, Clément, dis donc.
T'as gagné, mon pote.
Non, il a perdu, hein. Il est supporter du FC Nantes.
Ah oui.
Au vu du match, un match de reprise après une trêve internationale, pas mal d'absents, une équipe de Metz qui avait plus faim que nous, tout simplement. Donc, les ingrédients, si on est supporter du côté nantais, tous les ingrédients pour voir une purge, quoi. Donc,
T'as Clément, c'est dommage, c'est au moment où Palois arrête sa carrière internationale qu'il est blessé.
Ouais.
C'est quand même dommage, ça.
Tout à fait, mais bon. Après, je veux pas non plus jeter la pierre à Wague, parce que je trouve quand même que son expulsion, elle est super sévère. Un jeune, ça aurait été largement suffisant. Mais bon, clairement, on avait nos deux latérales gauches qui étaient sur le flanc ce soir. Moutoussamy, c'était une première. Palois, pas l'impression que c'était le taulier. Bon, c'est tout simplement un match sans. Après, je pense que techniquement, on est au-dessus de Metz. Mais
c'est physiquement. C'est physiquement, c'est dans l'engagement. Et je pense que ouais. Le milieu de terrain, Abeid et Touré, on a dit beaucoup de bien de cette paire-là. Mais ce soir, c'était un petit peu compliqué. Ils ont perdu beaucoup de ballons. Ils ont été incapables de remonter le bloc nantais. Et du coup, vous êtes exposé.
Souligner aussi la justesse tactique de Vincent Ognan, qu'on a beaucoup décrié ces derniers temps, notamment du côté de Metz, qui a senti que justement Moutoussamy, qui est un peu le couteau suisse du côté du FC Nantes, n'était pas forcément à sa place à ce poste de latéral gauche. Et d'où la rentrée de Boulaya pour le mettre au supplice. Et forcé de, enfin, il faut voir quand même que ça a porté ses fruits, puisque c'est le but vient de ce côté-là. Ils ont pas mal insisté, donc bravo aussi à Vincent Ognon qui a su voir les brèches dans le système nantais.
Exactement. Ok messieurs, on vient dans un instant la suite de l'after. Bon programme, on va parler de Choc Clément, merci Clément d'avoir appelé. On va parler du Real Madrid qui est mené toujours 1-0 à 5 minutes de la fin sur la pelouse de Mallorca. Ah, je sais pas comment ça se fait, parce que le Real est un petit peu inconstant cette saison et le Real est à 10 également.
C'est le gros
Fadamel sera avec nous, bien sûr. Lyon, surtout. Lyon, on va prendre 30 minutes pour parler de la situation de l'Olympique Lyonnais. Catastrophique au classement, bien sûr, après le match nul 0-0 face à Dijon avec la première de Rudy Garcia. Younis Abdelhamid sera avec nous également. Buteur Rémois ce soir, vainqueur de Montpellier, 1-0. À tout de suite.
RMC. L'Afterfoot. Nicolas Jamain.
On est avec Jonathan Macardy, Ludovic Obraniak, bien sûr, jusqu'à minuit, tous ensemble, after, tous les soirs de la semaine, du lundi au dimanche, à la télé sur RMC Sport News, à la radio sur RMC. Fred Armel nous attend. Le Real va sûrement s'incliner ce soir, trois jours de Ligue des Champions. On sera avec Paulo Breitner pour la Bundesliga. Beaucoup de choses à raconter, notamment le Bayern Munich tenu en échec. Et bien sûr, Lyon, dans un instant. Grosse page Olympique Lyonnais, supporter Lyonnais, appelez-nous au 32-16, le hashtag RMC Live. Votre avis sur la situation, en tout cas pour l'instant, après 10 journées, on peut le dire, catastrophique de l'OL au classement, 16e de Ligue 1, possiblement 19e demain soir, selon les résultats de la journée de demain. Mais d'abord, on a un invité avec nous, on a un buteur de Ligue 1, c'est pas tous les samedis soirs dans l'after. Younis Abdelhamid, buteur rémois, est avec nous. Salut Younis.
Salut, bonsoir.
Salut, bravo. Hein. Déjà bravo Younis, que tu as marqué enfin, ça faisait deux ans que tu n'as pas marqué en Ligue 1.
Il était temps quand même.
Ah, merci, oui, c'est clair, il était temps, ça fait un moment que je l'attendais. Bon, j'étais passé pas loin, mais aujourd'hui, ça va, j'ai eu de la réussite, ça m'a souri, donc tant mieux pour moi, pour l'équipe, et j'espère que ce ne sera pas le dernier maintenant.
Younis, tu es défenseur d'une équipe qui s'est imposée 1-0 ce soir, bien sûr, face à Montpellier, et qui est aujourd'hui troisième provisoire de Ligue 1. Est-ce que tu t'en fous complètement de ça? Tu t'en fous, troisième? Ou est-ce que ça a vraiment du sens pour vous après 10 journées?
Ça a du sens.
Attends, laisse-le.
Dire on s'en fout, c'est un grand mot, parce que tous les joueurs, on regarde le classement quand je vois Reims, à Montpellier, ou dans notre équipe, on regarde tous le classement. Maintenant, à cette période-là de la saison, je pense que c'est pas le plus important. Faut plus regarder le nombre de points, le nombre de victoires. Et je pense que pour le moment, on avance bien. Et voilà. Donc à nous de continuer. Voilà. Après, c'est sûr que ça fait plaisir aux supporters, au président, de voir le stade de la troisième. Donc on est content, mais il faut continuer. Le plus important, ça reste le nombre de points, avancer dans le championnat.
Younis, Jonathan Macardy, Ludovic Obraniak, t'écoute également. Jonathan.
Salut. Et déjà, alors bravo pour ce beau coup de boule en début de match. C'est toi qui a débloqué un petit peu le match. Moi, la question que j'ai, c'est toi qui es Montpellierain d'origine. Qu'est-ce que ça te fait de gagner contre le MHSC?
Non, ça fait plaisir, hein, parce qu'on reçoit beaucoup. Je reçois beaucoup de messages avant le match, et voilà, dans la famille. Et dans les amis au quartier, j'ai beaucoup de supporters Montpellierains, certains même qui font les déplacements avec avec le groupe de supporters et qui sont dans la pitoyade. Donc voilà, ça me fait plaisir parce que c'est mon club, voilà, de même si j'ai jamais joué, c'est mon club en, de cœur, voilà, que j'ai toujours vu depuis tout petit. Donc voilà, ça me fait vraiment plaisir et surtout de les gagner.
Ludo Bragnac.
Non, Younis a la victoire modeste, mais oui, on peut pas dire que Reims peut s'en foutre. Ce qu'ils font, c'est quand même assez incroyable. Réaliser une saison comme ils ont fait la saison dernière
déjà,
et confirmer malgré les changements, malgré les arrivées des uns et des autres, je trouve que c'est une vraie performance. Aller gagner à Marseille, aller gagner à Paris, cette équipe est l'épouvantail de la Ligue 1 depuis un long moment. Donc c'est pour ça qu'il est trop modeste, Younis, parce que cette équipe a un vrai coup à jouer cette année. Je voulais savoir quel était surtout ton rôle. Alors bien évidemment, tu fais partie des tauliers, mais il y a pas mal de jeunes joueurs qui émergent dans cette équipe, qui sortent, que David Guillon et Stéphane Dumont ont sorti du chapeau. Toutes ces petites terreurs là, elles ont besoin d'être cadrées avec Alexis Romao. Vous avez le rôle un peu de grand frère, de père fouettard. Comment ça se passe au sein du vestiaire? Parce que j'ai l'impression que cette équipe, au-delà du fait que vous êtes performant, on sent que cette équipe, il y a quelque chose qui se passe.
Il y a des bons joueurs.
Ça transpire une certaine amitié. Il y a des choses qui ne trompent pas.
C'était la question la plus longue de l'histoire de la radio.
On t'écoute, Denis.
On est avec Alex. Il y a aussi Tristan Dengoumé qui est blessé en ce moment. On va dire qu'on est les trois cadres de l'équipe. Après, on a vraiment une équipe jeune. Et nous, notre rôle, c'est vraiment de d'encadrer tous ces jeunes là, voilà, de parfois de leur mettre un coup de pied au cul à l'entraînement, ouais. quand il y a pas l'intensité nécessaire, quand on sent qu'on est un peu ramolli, quand on fait pas le job. En tout cas, je pense que le coach nous laisse à nous trois carte blanche justement sur la gestion du vestiaire et à terme dans son objectif c'est que nous devenons les patrons du vestiaire et que le staff n'ait plus rien à faire en gros de dans le vestiaire, dans la gestion des joueurs. C'est nous qui devons gérer le vestiaire et donc ça se passe plutôt bien. Après, ce qui nous tient à cœur surtout, c'est justement quand on a une superbe ambiance dans le vestiaire, une bonne dynamique depuis 3 ans. Ce qu'il faut, c'est être récompensé sur le terrain et la seule récompense, ouais, c'est les victoires et justement avant le match contre Montpellier on s'est dit ça, parce que après le match de Rennes, quand on arrive à gagner à Rennes, on se dit on est vraiment cons, on gagne Paris, on s'effondre, on gagne Marseille, on gagne pas derrière. Là on a gagné Rennes, il fallait à tout prix confirmer ce soir et ça s'est vu sur le terrain, tout le monde s'est dépouillé, ça n'a pas été facile.
Le scénario du match c'était compliqué, ouais.
On sait souffrir quand il faut. Et
Younis, voilà, grosse défense. Tu es défenseur central d'une équipe qui est meilleure défense de Ligue 1. Reims, messieurs, cette saison, c'est historique. N'a encaissé que 4 buts lors des 10 premières journées. Seul Bordeaux en 89-90 et Paris en 96-97 ont fait mieux avec 3 buts encaissés après 10 journées. C'est dingue.
Les gars,
Reims, 4 buts encaissés en 10 journées.
C'est pas que ça qui est intéressant dans cette stade.
C'est fort, ça.
Ce qui est intéressant dans cette stade, c'est que certes, défensivement, vous êtes très solide, mais que c'est pas non plus une équipe qui bétonne.
Non.
Une équipe qui propose des choses, qui se découvre quand même aussi au milieu de terrain. Et Younis, dernière petite question pour ma part. Toi, objectif collectif pour le stade de Reims, t'aimerais terminer aux alentours de quelle place au classement à la 38e journée? Et est-ce que tu t'es fixé un petit objectif en termes de but? On sait qu'en Ligue 2, tu marquais régulièrement sur corner l'année de la montée. L'année dernière, t'en as pas mis un, là, c'est ton premier but. Est-ce que tu t'as un objectif en tête?
Non, justement, par rapport d'un point de vue individuel, me donner un objectif de but. J'ai 48 matchs de Ligue 1 pour marquer mon premier but.
Non, il y a 5 buts. Il y a 5 buts.
C'est pas un souci, les buts.
5 buts.
Il en avait mis 4-5 l'année où vous montez, en Ligue 2.
Oui, mais c'est pas un souci, ça, pour lui.
C'est sûr que pour un défenseur, si on peut arriver à 3-4 buts, je pense que c'est correct et c'est raisonnable. Après, d'un point de vue collectif, pour nous, l'objectif, c'est de faire aussi bien que la saison dernière. On n'a pas vraiment de prétention de jouer l'Europe, de jouer. Non, c'est vraiment se maintenir aussi bien que la saison dernière.
Non, après, nous fais pas une Giroud, Younis, s'il te plaît. Pas une Giroud, arrête, s'il te plaît.
Non.
Arrête, Younis, vu comment vous finissez la saison dernière et vu ce que vous nous proposez sur les premières journées.
Il a raison,
vous
Younis.
Vous pouvez ambitionner quelque chose caché, un peu plus que le maintien.
Reste tranquille. Troisième, là. T'as mis ton petit but cette saison.
Ils vont heureux, ils vont cacher. Je sais pas si je me trompe dans l'expression. Mais
t'es dans l'after, c'est ça. Mouille-toi.
Mais voilà, on va continuer. Il faut qu'on confirme la semaine prochaine face à Nîmes.
Okay.
Continuer un nombre de victoires. Et dès qu'on aura un nombre de victoires et un nombre de points intéressants, ben, on verra. Après, ce sera.
Et puis nous, Younis, on attend de te voir en Ligue des Champions sur RMC Sport 1 la semaine prochaine.
On te rappelle à Noël et on te repose la même question.
Dans l'Europe de l'Est, peut-être.
Tu sais ce qui symbolise le bien-être de cette équipe, c'est l'arrivée aussi quand tu perds un gardien de la qualité de Mendy et que tu vois l'adaptation de Rajkovic.
Énorme Rajkovic.
Malgré le fait qu'il ne parle pas français.
Très fort.
Je dois dire que ça dénote d'une certaine atmosphère, ambiance dont on parlait pour pouvoir intégrer.
C'est la bonne pioche de l'intersaison, une des bonnes pioches. Rajkovic, incroyable. Merci beaucoup.
Ça marche. Merci.
Fini, vas-y.
Non, j'allais juste dire que oui, c'est vrai qu'avec l'arrivée des nouveaux joueurs, je pense que c'est l'état d'esprit qui est primordial et dans ce point de vue-là, ils sont vraiment pas à tromper et c'est, ça nous facilite la tâche après sur le terrain, dans le vestiaire et donc voilà, ça se voit après dans les résultats.
Et Younis, promets-nous, quand on te rappelle vers Noël, on te redemande quelles sont les ambitions de Reims, tu nous diras autre chose que le maintien.
Ça marche.
Merci Younis, excellent sur Rack. Troisième de Ligue 1, Younis Abdelhamid, défenseur central de la meilleure défense de Ligue 1. Troisième après des journées. Merci également à Arnaud Baladon, qui est le commentateur de ce match, qui nous a mis Younis au téléphone. Voilà, c'est l'after, le sourire. Un peu trop modeste, ce garçon, quand même. Tendance à avoir le boulard dans l'after.
Il se mouille pas, là.
Allez, on revient dans un instant. Grosse page Lyon après la pause, justement. Que Lyon peut espérer cette saison? Qu'est-ce que Lyon peut espérer cette saison? 16e de Ligue 1 ce soir.
Mais la modestie vient de son parcours aussi un peu.
À Younis.
Ouais.
À Rudy Garcia.
À Valenciennes, disons ça. Allez, l'after revient. Jonathan Macardy, Ludovic Obraniak, Fred Hermel également au programme. Le Real a perdu, messieurs, ce soir, à 3 jours d'un match de Ligue des Champions pour le Real sur la pelouse de Galatasaray. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot.
Forcément qu'il y aura des priorités, mais ça ne veut pas dire que la dernière des priorités sera une priorité aussi.
RMC.
Vous comprenez ce que je veux dire ?
Je vous entends parler, je vous entends écrire.
C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot.
Nicolas Jamain.
Pendant une heure encore ensemble, l'after jusqu'à minuit, bien sûr. Ludo Bragnac, Jonathan Macardy, un très gros programme. Il y aura les drôles de dames, messieurs. On aura trois drôles de dames, dont Fred Hermel après la défaite à l'instant du Real Madrid. C'est pas encourageant avant le déplacement à Galatasaray.
Si tout va bien.
Julien Laurence également sera avec nous. Beaucoup d'actu en Angleterre et en Allemagne aussi. Bien sûr, le Bayern, Leipzig a joué. Le Borussia a gagné enfin un match face à l'actuel leader de Bundesliga, le Borussia Munchen. Gladbach. Voilà, messieurs, maintenant on va ouvrir une grosse page Lyon parce qu'il faut en parler. Lyon recevait à 17h30 dans son parc OL Dijon, première de Rudy Garcia, sifflé à l'énoncé de son nom.
On s'y attendait
par le speaker. Score final 0-0, des sifflots accompagnés les joueurs lyonnais à la fin de cette rencontre. Des banderoles nombreuses avant le match ont fleuri dans les tribunes. Je vous en livre quelques-unes, messieurs, parce que voilà, elles sont lourdes de sens sur la situation, l'atmosphère qui règne autour de l'Olympique lyonnais après ce début de saison raté. Garcia, notre patience sera égale au respect que tu as montré au club, c'est-à-dire nul. Pour les joueurs, deux points, ouvrez les guillemets, un derby honteux, deux entraîneurs en 6 mois, et si c'était vous le problème ? Message adressé à la direction de l'Olympique Lyonnais. 6 octobre, nouvelle trahison, défaite face à Saint-Etienne. Vous êtes des lâches. Voilà, c'est des mots extrêmement forts.
C'est pas côté dirigeant, c'est aux joueurs aussi.
Joueurs, ouais. Dirigeants. Et Rudy Garcia également qui a été sifflé à l'énoncé de son nom. Messieurs 0-0, je rappelle le contexte. Lyon, ce soir, avant la fin de la 10e journée de Ligue 1, demain, est 16e du championnat de France, avec 10 points en 10 journées. Lyon n'a plus gagné depuis la mi-août. Ça veut dire qu'ils sont sur une série identique à celle de 1977. Ça faisait 42 ans que Lyon n'avait pas connu une telle situation. C'est historique. Ludo.
Écoute, je t'ai dit, dans mes trois points, je me suis amusé à faire le me mettre à la place de Rudy Garcia, comment j'aurais pu analyser ce match-là et quelles sont les choses que je pouvais en tirer. Première chose, le 4-3-3 a oublié. C'est pas fait pour cette équipe-là. Clairement, je pense qu'un 4-2-3-1 serait beaucoup plus adapté. 4-4-2. Même en l'absence de ou 4-4-2 ou 4-2-3-1, peu importe. Mais en tout cas, le 4-3-3 n'est pas adapté pour cette équipe. Deuxième point, c'est qu'il faut faire jouer Jeffrey Adelaide. Ce garçon a la faculté. Alors, il a un peu manqué de lucidité sur certaines occasions, mais au moins, il a le mérite de se les créer. Alors qu'il n'a fait que rentrer en jeu, ce garçon a une capacité d'élimination à créer des brèches dans la défense, que ça soit par la passe ou par la course. C'est un garçon qui doit être aujourd'hui titulaire dans chaque match de l'Olympique.
C'est une des rares satisfactions dans chaque match de l'Olympique Lyonnais.
Troisième point, il faut arrêter avec ce bloc médian. J'ai trouvé Rudy Garcia un peu fébrile sur ce début de match. Tu joues le 18e à domicile. Lyon a besoin d'un certain allant, besoin de créer quelque chose. Et ma conclusion, c'est que Lyon ne sait pas récupérer les ballons. Ils récupèrent les ballons souvent quand l'équipe adverse arrive aux abords de leur surface ou aux abords de la défense. Une erreur technique, et donc c'est à ce moment-là qu'ils récupèrent le ballon. Donc ils partent souvent, les attaques partent de 70 mètres. C'est-à-dire c'est très difficile aujourd'hui de surprendre l'adversaire quand tu pars de si loin.
Le problème du match de cet après-midi, c'est qu'effectivement, on peut lui pardonner parce que il est arrivé dans les circonstances qu'on connaît. C'est un premier match. Il a des absences majeures en tête de gondole. Il a Memphis Depay qui n'est pas là, qui est le meilleur joueur de l'équipe. Après, ce qui est quand même aberrant, c'est que tu l'as très bien dit, ce 4-3-3, ça ne convient pas à cette équipe-là. Et on le sait tous. Le problème, c'est que lui, il arrive, soi-disant, il a réussi son entretien d'embauche. Il a étudié les matchs de l'Olympique Lyonnais. Mais pourquoi tu te remets dans ce système-là qui ne fonctionne pas? Ce milieu Touzard, Mendes, Aouar n'a ni queue ni tête. Faut pas le faire. Faut pas aligner ça. T'as d'autres cartouches sur le banc. Là, au milieu de terrain, c'est un secteur où t'avais quasiment tous tes joueurs. Pourquoi tu commences directement à vouloir mettre ton système phare qui est le 4-3-3? Il a fait pareil à Marseille, hein. On sait qu'à Lille, vous avez connu des très grands succès en 4-3-3. Mais il a une sorte d'entêtement et d'obsession avec ce système-là qui fait que là, il arrive, il a analysé, soi-disant, les matchs. Il sait que ça ne fonctionne pas, mais il essaie quand même. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point de ce qui m'a déplu côté Olympique Lyonnais, c'est que très franchement, alors, il y a des choix qui sont très forts, notamment en défense centrale. Raphaël est sur le banc, le défenseur dont je
Marcelo dire, capitaine
c'est
aujourd'hui.
Marcelo qui est capitaine. Anderson est sur le banc, Jeffrey Adelaide est sur le banc, Bertrand Traoré est sur le banc, Maxwell Cornet joue. Il y a des choix d'hommes qui sont très forts, mais ce qui me convient pas, c'est que t'as l'impression qu'il est arrivé en voulant mettre sa patte sur l'équipe en faisant ces choix forts là, mais avec un petit peu de démagogie quand même. Il y a des joueurs qui sont contestés. Il les a pas mis. Traoré, par exemple,
bah, il les a pas mis.
Attends,
il aussi a pas de séduction là. À l'image,
et donc c'est pour ça que je parle de démagogie. À l'image de l'entrée de Cherki, on sait que c'est un petit peu la petite pépite lyonnaise, l'enfant chéri. Mm-hmm. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée de le faire rentrer
aujourd'hui
avec le numéro 10 sur le palto dans un match comme ça? Un
pas
petit
le
peu
numéro
compliqué.
10, c'est le numéro 18 déjà.
Ok. Mais oui, c'est vrai ça. Mais de rentrer comme ça dans un match compliqué alors que c'est un jeune.
Mais
est-ce qu'il est prêt? Non, c'est de la démagogie. C'est pour séduire le public.
Je pense que Rudy Garcia, comme l'a dit en conférence de presse, j'ai lancé des joueurs à Marseille, j'ai lancé des joueurs à Lille, notamment par Eden Hazard, à Rome. Je pense qu'il pourra dire dans 5-6 ans, si il est en équipe de France, Cherki, j'ai lancé Ryan Cherki.
Au-delà du coup politique, est-ce que ce garçon peut faire moins bien que les joueurs qui sont actuellement dans l'effectif de l'Olympique Lyonnais? Est-ce qu'il peut faire moins bien que Bertrand Traoré? Est-ce qu'il peut faire moins bien que Maxwell Cornet? C'est un coup politique. Je te rejoins tout à fait parce que il n'y a rien de mieux pour séduire les supporters lyonnais que de lancer un mec de la formation. Mais moi, je suis désolé, ce garçon, les qualités qu'il a, pour moi, aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, ils sont beaucoup plus matures qu'à une certaine époque. Et à 16 ans, tu peux totalement jouer en professionnel.
Il avait le numéro 18 qui est quand même le numéro de Nabil Fekir. Oui. Tu fais pas rentrer un jeune dans le match avec ce scénario-là, dans un scénario qui est compliqué où tu sens que de toute manière ça va finir à 0-0 juste pour t'attirer les faveurs du public lyonnais. Tu risques quand même la carrière d'un gamin. Il a 16 ans.
Je crois pas. Et tu le fais jouer quand alors?
Mais c'est de la démagogie.
Et ben tu peux associer la démagogie.
Ludo, il est vrai qu'il aurait pu attendre
C'est de la démagogie.
Mais il pose question, il aurait pu attendre 2-3 journées.
Mais pourquoi il peut attendre?
Non, mais d'arriver mais alors, non, dans son accueil.
Ce garçon, dans, non, ce match-là, dans ce match-là, il n'y a pas de détonateur. Qui te dit que ce garçon ne peut pas être le facteur?
Bah, moi, je vais te répondre. Je vais répondre à Ludo. Pourquoi?
Très court, parce qu'on nous attend beaucoup d'appels au 32-16.
Pourquoi tu ne dois pas le faire entrer? Parce que tu ne fais pas passer ta carrière d'entraîneur par démagogie pour t'attirer les faveurs des supporters. Tu ne le mets pas, tu ne l'as fait pas reposer sur le dos d'un joueur de 16 ans.
Mais je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Il peut très bien, ce garçon, il a des qualités, il aurait très bien pu claquer le but. Alors, certes, il y a un peu de démagogie, mais ce garçon, il fait pas pire que les autres, et c'était le moment de le lancer parce que Lyon, dans les 20 dernières minutes, a fait le siège de cette défense, et il aurait pu très bien pu débloquer la situation.
Le fait qu'il ait 16 ans,
c'est pas une excuse.
Ludo dit pas que c'est forcément une mauvaise idée, mais qu'il y a souvent un petit coup politique également.
Pourquoi les deux peuvent pas être vrais?
Oui, mais les deux sont vrais, donc on est d'accord, messieurs. Mathias, supporter de l'OL au 32-16. Salut Mathias.
Bonsoir messieurs.
Salut Mathias.
Bon, t'as suivi le match évidemment. Ambiance délétère en avant-match. Quelques sifflets ensuite, à part l'ovation pour Ryan Cherki. D'où vient le problème selon toi à Lyon aujourd'hui?
Bah écoutez, moi je pense que c'est pas forcément un problème de coach, même si moi j'aurais préféré Laurent Blanc avec Gasset à Rudy Garcia. Mais moi je pense que c'est surtout un problème d'effectif et puis de mentalité quoi. Ça mouille pas une maillot. Et d'ailleurs, j'avais un joueur à proposer, si Jean-Michel Aulas nous écoute. Un joueur qui devrait plaire à Jonathan, c'est un joueur qui est en fin de contrat, il s'appelle Charles Aranguise.
Ah bah oui. Mais le problème, c'est que Charles Aranguise, à mon avis, il va avoir des offres très intéressantes en Bundesliga.
Oui, bien sûr. Ça, on est d'accord. On est d'accord, Jonathan. Mais par exemple, en début d'année, enfin en début de saison, il lui restait un an de contrat. Pourtant, je ne dirais pas un mec comme ça qui a 30 ans, qui peut être un taulier et qui aura peur de personne.
Je veux juste répondre là-dessus. Parce que c'est intéressant. C'est vrai que c'est un très très bon joueur et qu'en termes de profil, un milieu relayeur qui met l'agnac et qui est aussi capable de jouer devant la défense, c'est typiquement le genre de joueur qu'il aurait fallu à l'Olympique Lyonnais. Donc très bien d'avoir repéré Aranguise, mon pote.
Vas-y, Mathias, il n'y a pas que lui.
Par exemple, franchement, il y a beaucoup d'erreurs de casting à Lyon. Déjà, je suis d'accord avec vous, le 4-3-3, quand on n'a pas d'ailier, parce que je suis désolé, bons ailiers à Lyon, on n'en a pas. Traoré, Cornet, enfin.
Même Carrier, c'est pas un ailier.
Cassez-vous, les mecs, cassez-vous. Si vous n'avez pas envie de courir, barrez-vous, quoi.
Même Carrier, ce n'est pas un ailier, les gars.
4-3-3,
je pense. Je vois les choses différemment. Au-delà de, j'ai pas eu le temps de finir mon développement parce que Jonathan m'a coupé entre temps. Mais pour moi, le grand problème de l'Olympique Lyonnais sur ce match-là, c'est, et tu le vois dans la perception de la première mi-temps et la perception de la deuxième mi-temps, c'est que ce groupe n'est pas capable d'aller récupérer des ballons. C'est-à-dire qu'en première mi-temps, il y a eu deux récupérations hautes qui ont été cherchées dans les pieds des défenses du milieu de terrain adverse. C'est une fois une récupération, je sais plus si c'est Thiago Mendes ou autre, qui joue tout de suite Aouar, qui lance.
C'est Mendes.
Et la deuxième, c'est Oussem Aouar, qui fait un retour et qui récupère un ballon et qui se crée une occasion. Cette équipe doit un petit peu forcer son destin. Ils doivent mettre un peu ses joueurs dans la difficulté. Ils sont là bloc médian et ils attendent que ça se passe tout le temps. Cette équipe doit défendre de l'avant, doit aller chercher son adversaire beaucoup plus haut, notamment à Lyon. Et cette équipe ne le fait pas. Je trouve qu'il y a un déficit physique, parce que quand je vois Oussem Aouar qui s'est défoncé aujourd'hui sur le match et qui finit carbonisé à 20 minutes de la fin, limite avec un peu de crampe, je me dis que cette équipe, elle n'est pas prête justement à jouer ce jeu-là. Et quand t'es Lyon, tu peux pas te permettre d'attendre bloc médian.
La faute de Rudy Garcia, parce que très franchement, si on se penche purement.
C'est pas lui qui a fait la
préparation. Si on se penche sur. Non, mais alors par rapport à ce que tu disais sur le fait que Lyon avait manqué d'agressivité, etc. Quand tu te penches sur la composition du milieu de terrain lyonnais, t'as Touzard, Aouar et Mendes. À la base, est-ce que Thiago Mendes, on n'est pas dit qu'il venait pour remplacer Lucas Touzard? Quand tu parles de frilosité, Ludo, c'est ça, c'est symbolisé par ça, la frilosité de Rudy Garcia. C'est d'arriver, premier match contre Dijon, de mettre et Mendes
c'est un
et Touzard.
Rassurant.
Ça ne sert à rien.
Il a de l'impact, Touzard.
Mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu mets Thiago Mendes devant la défense et tu lui adjoins Jeffrey Adelaide qui lui a un volume de jeu, de l'agressivité et est capable d'aller chercher les ballons plus haut et Oussem Aouar. Mais tu mets Mendes et Touzard. Ça n'a ni queue ni tête.
Les gars, alors qu'on donne la parole, beaucoup d'appels au 32-16. Vas-y, Ludo.
Nico, en deuxième mi-temps, quand le bloc a commencé à monter un peu plus haut, que Denayer et Marcelo sont montés d'un cran, ils ont étouffé cette équipe. Mais ça, tu dois pas le faire que sur la deuxième mi-temps. Tu dois le faire dès le début du match, surtout dans cette situation-là.
Et quand est-ce que c'est arrivé, ça, Ludo, en deuxième mi-temps? Moi, je pense que c'est principalement arrivé avec l'entrée de Jeffrey Adelaide.
Bien évidemment.
Voilà.
Bien évidemment.
Donc c'est l'équilibre du milieu de terrain où il a été.
Vas-y, Mathias.
Moi, j'aimerais juste, parce que avant, je travaillais dans le monde de la nuit, et j'aimerais bien ne plus les voir dans le cadre de mon travail, les joueurs de nuit.
Non, c'est le cas vraiment ou pas,
Mathias? Si vous croisez Kenny Tété, appelez-le vodka Sprite, il saura pourquoi.
D'accord, bah, d'accord. Ça s'est vu ce soir, hein, parce que on peut en parler aussi. Tu parles de la compo de départ, mais quand t'as Marçal sur le côté, qui apporte jamais offensivement, et Kenny Tété qui pareil, donc déjà, t'es déjà à 4 joueurs à vocation défensive derrière. Et en plus, tu mets 2 mecs au milieu qui sont des joueurs à vocation défensive.
Pourquoi
tu joues chez toi contre Dijon le 18e?
Le choix, quand t'as Raphaël sur le banc et que tu décides de partir avec des latéraux de Tété Marçal avec Mendes Souzar, c'est que vraiment Garcia là, et voilà, c'est le bon de la bonne
vie. Il a joué un peu petit.
Et tu sais, juste, c'est un des seuls mecs qui a du caractère dans le jeu.
C'est vrai. Et je vais vous faire juste le parallèle qui est intéressant avec la première de Rudy Garcia à l'Olympique de Marseille. C'était contre le Paris Saint-Germain. Donc c'était un match quand même un petit peu compliqué.
0-0.
0-0, une purge avec l'équipe bloc bas, pareil.
Voilà, donc on n'est pas là pour juger le travail à venir de Rudy Garcia. On va voir, c'est une première effectivement.
Non, mais il découvre un effectif. Un peu plus de panache.
Oui, en revanche, on attendait un peu plus de panache.
Je joue pas contre le PSG,
j'aimerais beaucoup que Lyon ne finisse pas européen cette année pour que ça, ça réveille un petit peu tout l'encadrement de ce club et que Jean-Michel Aulas
ce qui vient d'arriver ces dernières semaines. C'est quand même un sacré électrochoc ce qui vient de se passer Mathias.
Mais Mathias, je te réponds juste là-dessus. Je comprends pourquoi tu voudrais que l'on ne finisse pas européen, mais je te rappelle juste que d'une part ton club est coté en bourse et que d'autre part ton club a consensus des investissements d'une très grande ampleur. Donc c'est impératif pour la santé financière et la pérennité sur le moyen terme de l'Olympique Lyonnais que vous qualifiez en Ligue des Champions.
Merci Mathias.
Mais je pense pas que cette année ça fera Ligue des Champions Lyon.
Et ça sera dramatique.
Bon, pour l'instant, c'est mal parti, mais rien n'est terminé, évidemment. Lyon, 16e de Ligue 1, 10 points. La Ligue des Champions, elle est à 7 points. Le barrage, 9 points avec Nantes, 19 points.
En tout cas,
merci Mathias, excellente soirée à toi.
La dernière demi-heure, bon, c'est quand même dans le marasme ambiant du début de saison.
Oui,
estimé que la deuxième mi-temps.
Tiens, justement.
Toute petite lumière.
Ludo, écoute Rudy Garcia, interrogé par Edouard G, juste après la rencontre.
Il faut absolument positiver parce que les joueurs ont besoin de ça. Le contenu montre qu'ils ont bien fait, ils avaient une forte envie de gagner. Il leur a manqué juste le petit but pour être récompensé. Donc voilà, maintenant il faut se concentrer sur mercredi.
Mercredi, Ligue des Champions pour Lyon, on le rappelle, sur le terrain de Benfica sur RMC Sport à 21h. Anthony, supporter de l'OL au 32-16. On va revenir sur la déclaration de Garcia, Jonathan. Salut Anthony.
Salut les gars.
Salut, merci d'avoir patienté et bienvenue dans l'after surtout. Pour toi, le problème est plus profond que cette saison, je crois.
Mais oui, ça fait plusieurs années que je parle dans l'after.
Oui,
et
c'est
que
vrai.
Je vous dis qu'il n'y a plus d'ambition dans ce club et que certains ne m'écoutent pas. La vérité, c'est qu'on n'est pas ambitieux parce que chaque année, de 3-4 meilleurs joueurs, on les vend. En fait, on fait pareil, on fait du trading de joueurs, mais sauf qu'on peut, là, cette année, on paye cette politique qui marche pas parce qu'on s'est planté sur notre mercato. Ça faisait 5-6 ans que Florian Maurice trouvait des pépites, des Ndombele, des Mendy, qui faisaient que chaque année, on arrivait à se maintenir vu que le niveau de la Ligue 1 est faible. Cette année, la cellule de recrutement, jusqu'à maintenant, elle s'est plantée.
C'est vrai.
Et vu qu'on a un club qui n'est plus ambitieux, parce que c'est quoi l'ambition d'Aulas aujourd'hui? Moi, quand je dis ambitieux, c'est qu'à une époque, dans les années 2007, on était presque en train de devenir un concurrent crédible à faire des demi ou à gagner avec des champions.
Bien sûr.
Aujourd'hui, la seule ambition d'Aulas, c'est de finir dans les 3 premiers, dans l'idéal deuxième.
Et de sortir des poules.
Pour aller chercher avec des champions, et ça s'arrête là. Sauf que quand vous avez en haut votre club, un manque d'ambition comme ça, ça se reflète sur tout le club et tous les choix sportifs qui en découlent. Sont comme ça.
Anthony.
Et à chaque fois, en fait, on remplace nos meilleurs joueurs par des joueurs moins bons.
Non, Anthony, non. Je suis d'accord avec le fait que Lyon manque d'ambition maintenant, mais tu peux pas faire remonter ton analyse à 2007 parce que je peux comprendre la stratégie que Jean-Michel Aulas a mis en place. T'es quand même passé par une phase où tu as dû un peu te serrer la ceinture pour financer ton stade, ok? Une fois que l'Olympique Lyonnais a acquis son stade, qu'il était propriétaire qu'il était propriétaire du stade, Aulas avait dit sur le moyen terme on va passer dans une autre dimension. Le problème il est là, c'est que le passer dans une autre dimension, c'est qu'ils ont changé de paradigme et qu'ils ont arrêté de s'appuyer sur des joueurs du cru. Hein, on se rappelle l'année, le mercato où tu perds Umtiti, Tolisso, tu vends un petit peu les bijoux de famille et où tu tournes en fait vers une politique de recrutement où tu prends vers l'extérieur. Et ça, à mon sens, ça a été très mal géré parce que tu n'as pas
réussi. Ils ont vendu les bijoux de famille?
Un petit peu, Umtiti, Tolisso, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu les enfants.
Non, mais
c'est
l'image des bijoux de famille.
Juste pour finir, le problème, c'est que je pense que Florent Maurice a été compétent pour trouver des bons coups. OK, des bons coups à 15-20 millions d'euros.
Des beaux bijoux.
Mais que là où le bas blesse, et si l'Olympique Lyonnais veut passer dans la dimension supérieure, il faut que Florent Maurice ou un autre directeur sportif arrive à recruter correctement des joueurs de qualité supérieure à 30-40 millions d'euros. Et pour l'instant, c'est ça le problème.
Accessoirement, entre-temps est arrivé le PSG et les Qataris au PSG, hein, qui ont créé une nouvelle concurrence en Ligue 1.
Sauf que Lyon a changé de
stratégie. Clubs ont travaillé aussi,
mais non,
que
Nico,
Monaco a travaillé aussi.
Mais
c'est des cycles, Jonathan,
non,
le foot aussi, c'est des cycles.
Analyser le truc, je te dis, Lyon a changé de phase, a changé de cycle, alors que les Qataris étaient déjà arrivés. Le problème, c'est la direction de l'Olympique Lyonnais et la cellule de recrutement qui n'est pas capable de faire le saut qualitatif en recrutant des joueurs à 30-40 millions d'euros sans se planter.
Ludo.
Non, le constat qui est fait par Anthony est assez juste sans remonter si loin. C'est-à-dire que quand tu mets en façade les pertes de cet été et les arrivées, il y a un décalage réel entre les joueurs, ah bah là, l'importance qu'avaient les joueurs
qui sont partis, qui s'en va, ça fait mal,
et ceux qui sont arrivés. Donc il est clair que sur ce recrutement, Lyon n'a pas été à la hauteur. En tout cas, les joueurs qui sont arrivés ne sont pour l'instant en termes de talent. Et encore, même sur l'avenir, je pense pas que Youssouf Koné a la qualité de Ferland Mendy. Je pense pas que
Ndombele est parti.
Moi, j'ai de l'espoir pour Andersen, par contre.
Fekir est parti, qui était.
Ah bah, c'est celui pour lequel j'ai le moins d'espoir.
Ouais, je l'ai vu jouer l'année dernière. Putain. C'est son frère qui joue là. Il y a un problème. Il y a un problème.
Anthony, merci. Qu'est-ce que tu penses des sifflets, toi, à l'encontre de Rudy Garcia là avant le match?
Pardon?
Qu'est-ce que tu penses des sifflets à l'encontre de Rudy Garcia? Avant le début du match.
Enfin, après, moi, je les comprends vu l'historique. Maintenant, le problème, c'est que, enfin, si on lui laisse pas sa chance, on va finir 15e. Et c'est quoi, enfin, ça, enfin, faut au moins lui laisser le temps de travailler. Moi, mon seul espoir, c'est de me dire qu'il va rester un an et demi, qu'il va maintenir le club au moins en Ligue des Champions, et qu'après, on partira sur un nouveau projet. Clairement, moi, je crois pas en Rudy Garcia qui va nous faire redevenir, enfin. L'ambition de l'OL, enfin, moi, je veux bien ce que vous me dites sur le PSG, les Qataris, mais on est un qui, ça fait que ça fera la quatrième année cette année, où on va peut-être même pas être capable de finir deuxième.
C'est hyper intéressant ce que tu dis. Ouais.
Mais Anthony,
chaque année, on trouve un nouveau rival. On finit derrière lui, on finit derrière Lille, on finit derrière Monaco. Donc, c'est pas normal, avec 300 millions d'euros de budget, de pas être capable de finir juste deuxième tous les ans.
Mais Anthony, tu sais, Rudy Garcia, il arrive en pompier de service. C'est pour ça qu'il a, et c'est pour ça qu'il a que 2 ans de contrat. Après, moi, l'erreur majeure, c'est d'avoir pas donné sa chance à un staff complet. Quand tu prends un entraîneur, que ça soit Silvinho ou Laurent Blanc, comment tu peux imaginer qu'un mec comme Laurent Blanc, qui travaille depuis des années avec un adjoint et que ça marche, lui accepte de venir et bosser avec Gérald Batique? Je connais pas vraiment Gérald Batique et l'importance qu'il a dans l'Olympique Lyonnais. Mais est-ce que Gérald Batik, ça te fait rater Laurent Blanc, Gassé, Passy, d'avoir un staff complet et compétent? C'est une révolution qui n'en était pas vraiment une.
T'as tout à fait totalement raison. Et moi, le sens de mon propos là, c'est.
Et même Silvinho pour lui, Souza arrive, il a 5 adjoints. Villas-Boas arrive, il a 5 adjoints.
Non mais Ludo, c'est ce que tu dis, t'as totalement raison. Et je pense qu'il faut aller plus loin. C'est que par rapport à ce que disait Anthony sur les critiques du manque d'ambition depuis 2007, moi, pour moi, c'était une phase qui était normale. Tu prends le stade, etc. Mais là, ce qu'on nous a annoncé cet été, c'était le passage dans une nouvelle dimension. Si tu veux passer dans une nouvelle dimension, t'as besoin d'un mec qui te recrute des joueurs d'une autre dimension. Je pense pas que Florent Maurice est très bon pour trouver des petites pépites, comme il a fait avec Ndombele, Mendy, etc. Mais la question que je me pose, alors attention, hein, on va parler de l'idole locale, mais Juninho n'a aucune expérience en tant que directeur sportif. Est-ce que Juninho a les mêmes réseaux que Leonardo? Est-ce que Juninho est capable de convaincre des joueurs d'un calibre européen de venir à l'Olympique Lyonnais? Et je pense que si la révolution avait été complète, il aurait fallu justement bouleverser ce secteur-là et prendre le mec qui est capable de prendre les joueurs qui te font passer le cap européen.
Merci Anthony d'avoir appelé le 32-16.
Juste pour finir.
Vas-y, finis.
Pour moi, l'autre erreur du mercato, et c'est là-dessus aussi que je voulais insister, c'est qu'on a vendu nos meilleurs joueurs et on a gardé ceux dont il fallait absolument se débarrasser. Traoré, Cornet, ils n'ont pas le niveau pour jouer à l'Olympique Lyonnais. Touzard, il n'a pas le niveau pour jouer à l'Olympique Lyonnais. On n'a aucun de nos latéraux défensifs qui a le niveau pour jouer dans un Olympique Lyonnais qui prétend à jouer la huitième de finale.
T'as pas tort.
Donc, on s'est planté.
Oui, t'as raison.
Et merci. Ça rejoint ce qu'on disait sur le recrutement.
Et tiens, il y a aussi ce tweet sur la chaîne RMC Live de Valverde Out. Si le meilleur joueur de Lyon est la recrue Jeffrey Nadelaide, c'est qu'il y a un problème aujourd'hui à Lyon.
Un joueur qui vient d'Angers, qui est jeune, bien sûr.
À noter quand même l'investissement et le match de Doussem Aouar qui était un peu décrit ces derniers temps, on voit que bon, il y a au moins ça, il a le garçon prend conscience de sa nonchalance et de la situation. Je l'ai trouvé particulièrement impliqué, un des seuls d'ailleurs.
Merci Anthony, excellente soirée à toi. Merci d'avoir appelé 32-16.
Et moi qui ai loué Thiago Mendes, je vais pas redire parce que je l'ai déjà dit, mais je dois dire que Thiago Mendes, je l'aurais presque mis sur le banc.
Mais Ludo,
parce qu'il faut qu'il y ait un électrochoc aussi, parce qu'il est hyper décevant.
On va parler juste du match de cet après-midi. Il est pas bon depuis le début de la saison,
et encore moins en 8.
C'est ce que j'allais dire. En 8, c'est pas son poste. Il faut le mettre devant la défense. Oui, c'est tout. Comme à Lille, tu le mets dans les meilleures dispositions possibles. Tu l'as pas pris pour le faire jouer contre nature. C'est stupide.
Fred Hermel, Julien Laurence, Paulo Breitner. On a 3 jours de la Ligue des Champions. D'ailleurs, Lyon sera sur la pelouse de Benfica, du Benfica Lisbonne, mercredi soir à 21h. Comme Lille, qui recevra mercredi soir à 21h. Valence qui a tenu en échec l'Atlético de Madrid hier, un but partout. On en parle avec Fred Hermel justement. Tiens, avant de faire marquer une pause, je vous rappelle qu'RMC vous offre un beau cadeau, votre rencontre VIP RMC. Vous pouvez partir à la rencontre des plus grands noms du football avec Mohamed Bouafsi, qui a la chance de rencontrer les plus grands noms du football dans son émission sur RMC Sport 1 comme jamais. Il a rencontré Villas-Boas, Marco Verratti, d'autres stars du foot vont être rencontrés dans les prochaines semaines, et vous pourrez assister au tournage aux compagnies de Mohamed et bien sûr de son invité. Pour ça, c'est simple, envoyez VIP au 732-16, VIP au 732-16. Hermel, Laurence, Breitner, McCarthy, Aubraniac, on est ensemble jusqu'à minuit, à tout de suite.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot. Nicolas Jamin.
Avec Ludovic Aubraniac, avec Jonathan McCarthy, les drôles dames sont là, elles nous attendent patiemment. On est ensemble jusqu'à minuit, bien sûr. Julien Laurence est avec nous. Salut Julien.
Salut Nico, salut à tous.
Tiens, Julien, avant de développer avec toi la journée en première ligue, petite info, messieurs. C'est ça qui rend pas hommage à André Pierre Gignac, que j'aime beaucoup.
Attention à ce que tu vas dire.
Attaquant les Tigresses, évidemment. Extrêmement critiqué comme toute son équipe aujourd'hui. Ils affrontaient Veracruz en championnat. Veracruz, joueur en grève, qui marque leur résistance par rapport à leur club et notamment au salaire impayé. Veracruz annonce avant le match, on va faire la grève pendant 4 minutes. 4 minutes.
Ils prennent le ballon, ils vont marquer.
André Pierre Gignac prend le ballon, va marquer. Son pote prend le ballon, va marquer 2-0. Alors qu'il s'est plus ou moins mis d'accord avec Veracruz. Score final 3-1, victoire des Tigresses. Le joueur Carlos Salcido de Veracruz dit: il savait que nous allions rester immobiles 3 minutes, c'est triste. Voilà, c'est pas la classe, les gars.
Bon, est-ce qu'on peut dire surtout que c'est le 100e but d'André Pierre avec les Tigresses aussi?
Super. But vide, joueur immobile, ça le rend pas hommage.
Peu importe, André Pierre reste André Pierre.
D'accord.
Il y a des joueurs comme ça, on peut pas dire de mal.
Julien Laurence n'aurait jamais fait ça. Julien.
Jamais.
On est d'accord.
Jamais. Voilà. Ça, c'est vrai.
Non, c'est moche. Pas,
on peut l'interpréter de deux manières. Hein. Est-ce qu'il est obligé de subir ou de
4 minutes, c'est pas classe, les gars. Ils sont pas payés, en fait. Ils sont pas payés.
Mais lui, il a pas demandé à ce que les mecs fassent ça. Ils ont pris une option à un moment donné qu'il l'assume aussi.
Les gars.
Je trouve pas ça hyper loyal, mais bon, on peut se mettre
c'est
aussi.
Pas loyal du
on
tout.
On peut se mettre à la place de. Il est pas obligé d'avoir les mêmes. Vu que lui, il est payé une blinde.
Il a donné l'argent.
Juste pour finir là-dessus, on va être très complet. Je pense que l'histoire, elle est bien plus compliquée que ça et qu'il faudrait au moins.
Il vient d'ouvrir son écran.
Non, c'est juste pour voir le but. L'histoire, elle est bien plus compliquée que ça. Il faudrait 15 minutes pour en parler. Ouais. Mais effectivement, c'est pas le geste le plus classe du monde. Mais c'est André Pierre, et c'est André Pierre, on critique pas.
Julien Laurence, c'est avec nous le pays où Arsène Wenger a fait retirer, a annulé un résultat.
Mais non, c'est Bielsa la saison dernière.
Bielsa aussi. Voilà.
Il a d'ailleurs eu le prix du fair play.
C'est vrai. Vous avez vu la lettre de remerciement qu'il a écrite après?
Qu'il a écrite où?
Après avoir reçu le prix du fair play.
Ah, d'accord, on vient là-dessus.
Magnifique. J'invite tous les auditeurs à la consulter.
Est-ce que tu l'as vu aussi pour les 100 ans du club? En survêtement.
Ah ouais, magnifique. Oui. Tout le monde en costard, lui, dernier rang.
Non, mais
c'est quoi l'histoire?
Je suis un grand fan.
Pourquoi?
Je suis un grand fan de Marcelo Bielsa.
Inimitable.
Mais là, franchement, il allait un peu loin quand même.
Non, mais
les 100 ans du club, tu viens pas en survêtement. Je suis désolé.
Ça a régi
tout le monde est en costume. Ça a fait rire les gens parce que effectivement, que c'est vrai qu'il est à part. Et puis, pour lui, ça ne dérogeait pas à la règle. Il est habillé en survêtement. Il va faire ses courses en survêtement de Leeds. Donc, il est au carrefour du coin avec son survêtement.
Il avait sorti son plus beau survêtement quand même.
Il a juste mis l'uniforme de travail du club, ce qui est un très grand signe de respect. Bravo, Marcelo.
Sauf que là, il était pas au travail. Il célébrait les 100 ans d'un club.
Du boulot.
Tu vois l'objectivité de ce garçon à ma droite.
Je rigole.
C'est terrible. Voilà. Merci Julien. C'est très bon ce soir, la première ligue.
Merci. Ciao Julien.
Et d'ailleurs, ils ont gagné.
Eh oui.
Julien, on commence par, Tottenham. Tottenham, tenu en échec à domicile ce soir, cet après-midi par Watford. Et pourtant, Watford menait 1-0 grâce à Doucouré, hein, qui marque à la 6e. Égalisation d'El Ahly à la 86e. Ça aurait pu plonger dans une crise profonde, mais c'est déjà le cas. Les hommes de Maurizio Pochettino. Ludo.
On veut savoir si Pochettino est en danger.
C'est pour ça que je pose la question. Où on en est à Tottenham? Parce que ça n'avance plus. Tottenham est 8e de Ligue 1. C'est quoi l'atmosphère déjà autour de l'équipe et autour de son coach Maurizio Pochettino?
Donc c'est très négatif, tu as raison effectivement, hein, puisque ce match nul aujourd'hui intervient après la défaite 3-0 à Brighton avant la trêve internationale, et puis surtout l'humiliation contre le Bayern Munich en Ligue des Champions 7-2 à domicile quelques jours avant déjà la défaite à Brighton. Ça fait donc 3 matchs de suite sans victoire. Aujourd'hui, c'était encore une fois très compliqué au niveau du jeu, collectivement, individuellement.
Watford dernier,
qui n'a toujours pas gagné un seul match de Première Ligue, mais clairement. Cette saison, en tout cas pour l'instant, on va au Tottenham Stadium un petit peu tranquillement et puis on va faire un résultat. On avait vu Aston Villa lors de la première journée promue qui avait échoué tout près d'une victoire qui aurait été assez incroyable. On a vu Newcastle qui sont vraiment pas bons cette saison aller gagner au Tottenham Stadium et donc aujourd'hui encore une fois Watford a été très proche de faire un très gros coup là-bas. Tottenham qui joue mal, dont les stars comme Heung-Min Son par exemple ou Harry Kane ne sont que l'ombre d'eux-mêmes. Dele Alli a marqué certes aujourd'hui, mais ça a quand même été très poussif. Pochettino avait essayé de bousculer un petit peu les choses. Il y avait une défense à 3 pour la première période, qu'il avait d'ailleurs vite changé à la pause. Mais pour l'instant, tu sens que son message ne passe plus. Tu sens que même lui, moi j'avais l'impression aujourd'hui que sur son banc de touche, il m'avait l'air un petit peu impuissant. Et tu te demandes vraiment où ça va aller parce qu'ils peuvent pas le virer. Pour l'instant, c'est pas possible. Un, parce qu'il y a personne pour prendre la relève. Deux, parce qu'ils viennent de lui offrir un nouveau contrat la saison dernière. Ce qui veut dire le payer très très cher si tu le limogeais. Et trois, parce que je pense que les joueurs, même s'il y a des tensions, même s'il y a quelques problèmes, je pense qu'ils croient encore en lui et que lui croit encore en eux. C'est une équipe quand même qui, la saison dernière, a fait une excellente saison, surtout en Ligue des Champions, même s'il y avait eu quelques miracles, pendant le parcours jusqu'à la finale. C'est quand même un effectif qui est très intéressant et lui il reste un très 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 bon entraîneur et c'est pas en quelques semaines qu'il est devenu nul. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui va pas en ce moment.
Ah mais quoi, Julien, comment on peut passer d'une situation d'une demi-finale de Ligue des Champions
une finale de
Ligue des Champions à cette situation là.
Julien,
t'as des infos toi?
Pour compléter la question, est-ce que tu penses pas que l'effectif il aurait fallu vraiment le renouveler? On sait que l'année dernière il y avait eu très peu d'arrivées. Là le mercato, même s'il y a eu un petit peu de changement, c'était quand même assez timide. Est-ce que tu penses pas que
Joe, la question c'est que c'est lui, il aurait dû partir à ce moment-là.
Aussi,
la question c'est lui qui aurait dû partir.
On va commencer par Pochettino. Et alors l'état d'esprit sur Pochettino, ce que le groupe a un petit peu mal vécu et les supporters aussi et le club aussi, c'est que après la finale de la Ligue des Champions perdue, donc il a dit que si Tottenham avait gagné la Ligue des Champions, il serait parti. Il aurait quitté son poste. Ça veut dire que dans sa tête, déjà avant la finale, il y avait une chance sur deux qu'il ne soit plus là cette saison.
La fin de l'histoire.
C'est-à-dire que psychologiquement, il s'était déjà préparé. Bah peut-être que en août, en septembre, je serai plus à Tottenham. Ça, c'est déjà bizarre en soi. La deuxième chose, effectivement, tu as raison, c'est sur l'effectif. Il voulait plus de joueurs. Le club lui a donné Ndombele, Lo Celso et Ryan Sessegnon, qui sont trois très bons joueurs. Mais effectivement, lui aurait voulu plus de départs et plus d'arrivées. Dybala, par exemple, ce qui ne s'est pas fait. Et tu as raison, il aurait voulu qu'on change plus un effectif qui, ne l'oublions pas, les 18 mois avant cet été, n'avait eu aucune nouvelle arrivée. Personne n'avait été recruté depuis Lucas Moura, donc en janvier d'avant.
Exactement.
La troisième chose, c'est au niveau du jeu. Ludo, parce que au niveau du jeu, on voit très bien cette saison, il l'avait déjà fait un petit peu moins l'année dernière, qu'il y a beaucoup moins d'intensité dans leur jeu. Alors que Pochettino, c'est l'école Bielsa, c'est l'intensité, mettre beaucoup de pression sur l'adversaire, surtout quand t'as pas le ballon, le récupérer très vite quand tu le perds. Ça, ils le font plus du tout. Et il y a des joueurs dans l'effectif qui ne sont pas d'accord.
Alors, Julien, pourquoi? C'est simplement parce que l'effectif n'a pas été assez renouvelé. La limite du système Bielsa, alors que moi, ça me fait mal au cœur de le dire, mais c'est qu'au bout d'un moment, quand tu joues comme ça, il y a une sorte de lassitude physique et psychologique qui s'installe chez les joueurs, et c'est important d'injecter du sang neuf.
C'est vrai. Ou alors, tu changes un petit peu ta tactique.
Aussi.
Tu gardes la même philosophie, en principe, mais tu peux l'altérer un tout petit peu, c'est-à-dire on va presser un peu moins, on va gérer un peu plus, on va jouer un tout petit peu plus bas peut-être. C'est ce que Pochettino a voulu faire cette saison et il y a pas mal de joueurs dans l'effectif, dans le vestiaire, qui eux ne sont pas d'accord, comprennent pas trop pourquoi ça a baissé en intensité, ça a baissé en pression, notamment sur l'adversaire.
Mais il avait des supports quand même importants au sein de cette équipe qui faisait passer, véhiculer ces messages. Est-ce que c'est avec ces joueurs-là qu'il est en bisbille aujourd'hui? Puisqu'il avait quand même Lloris avec qui il s'entendait très bien, Harry Kane, je ne sais pas si c'est Vertonghen ou l'autre avec qui. Enfin, tu vois, il avait quand même des relais. Est-ce qu'il a perdu ces relais-là?
Alors, il n'a pas perdu Lloris, par exemple, qui.
Oui, mais qui est plus là, donc du coup, plus compliqué.
Exactement. Harry Kane, qui, lui, traverse une période un petit peu plus compliquée, puisqu'il marque moins de buts, par exemple. C'est plus compliqué pour lui. Un joueur comme Dele Alli aussi. Et n'oublie pas non plus que Alderweireld, Vertonghen et Eriksen, tous les trois, qui sont quand même des piliers dans cette équipe, sont en fin de contrat au mois de juin. Et entre ceux qui auraient voulu partir cet été, comme Eriksen, par exemple, qui d'ailleurs ne l'a pas caché, il l'a dit publiquement, ou même Vertonghen, ils sont là alors que eux aussi voudrait plus trop être là, et ça pose aussi un problème, je pense, pas forcément dans la motivation, parce que c'est des joueurs qui veulent gagner, et il y a pas de souci là-dessus, mais qui eux se disent peut-être, bah voilà, c'est la fin d'un cycle, moi je voudrais plus trop être là, j'aimerais bien être ailleurs, découvrir quelque chose de nouveau, et peut-être que même inconsciemment, dans leur tête, eh ben, ils sont peut-être un petit peu moins performants qu'ils auraient pu l'être en temps normal.
Voilà pour Tottenham qui affrontera l'Étoile Rouge Belgrade mardi soir à 21h à suivre sur RMC Sport. Bien sûr.
Juste Nico, vas-y. C'est quand même assez marrant, c'est qu'il y avait quand même encore Serge Aurier titulaire, quoi.
Oui. C'est le Kurzawa de
incroyable.
Vietnam.
Ouais, c'est incroyable.
Les autres résultats rapidement. Chelsea s'impose 1-0, monte sur le podium provisoirement grâce à Alonso. Ça a été compliqué pour Chelsea aujourd'hui. Leicester, bonne surprise également. Julien, rapidement sur Leicester. 2-1 face à Burnley.
2-1. Jamie Vardy qui est toujours là. James Maddison, leur numéro 10. Yuri Tillemans, bien sûr, l'ancien monégasque. Ricardo Pereira aussi, l'ancien niçois, l'arrière droit, qui font pour l'instant une très bonne saison. J'attends de voir quand ils joueront contre des équipes un petit peu plus huppé, mais pour l'instant c'est très bien ce que fait Brendan Rodgers là-bas. Et puis Manchester City qui se reprend, hein, qui va gagner à Crystal Palace 2-0 avec un Pep Guardiola qui débute le match avec 2 défenseurs sur 11, quelque chose qu'on n'a jamais vu ici en Angleterre. Cancelo et Benjamin Mendy, les deux seuls vrais défenseurs de cette équipe. Incroyable. Avec Fernandinho et Rodri qui jouent tous les deux défenseurs centraux.
Un mot également rapide parce que c'est un fait de société, on n'arrive pas à en sortir. Un match de 4e tour de FA Cup a été arrêté aujourd'hui, Julien, entre Haringey Borough et contre qui c'était ce match?
Yeovil,
pour propos racistes, pour insultes racistes.
Insulte raciste, effectivement. On a beaucoup parlé de racisme ici en Angleterre après le match entre la Bulgarie et l'Angleterre dans des qualifications pour l'Euro 2020. Et les Anglais ont beaucoup critiqué, notamment les supporters bulgares. Et ben aujourd'hui, c'est arrivé chez eux, puisque le gardien camerounais donc de Haringey, qui est une équipe de 8e division. Donc on est vraiment au début de la Coupe d'Angleterre. Donc c'est vraiment 8e division contre 5e division. Effectivement, s'est fait insulter de manière raciste par les supporters adverses donc de Yeovil juste avant un penalty tiré par Yeovil, marqué par Yeovil, et après ce penalty transformé, l'entraîneur de Haringey a décidé d'abandonner la rencontre et de faire rentrer ses joueurs au vestiaire à cause de ça, ce qui est donc le protocole UEFA, hein, même si c'était pas un match qui était sous l'égide de l'UEFA aujourd'hui, mais quand même pour marquer le coup. On ne sait pas ce qui va se passer parce que c'est une grande première en Angleterre, une triste première, mais une grande première quand même. On verra comment la fédération anglaise va réagir, mais c'est un jour assez triste quand même dans l'histoire du football anglais.
Effectivement. Merci beaucoup Julien. Merci Julien pour les précisions. Excellent soir à toi. Très vite, on te revoit à Paris pour la Ligue des Champions, bien sûr, mardi, mercredi, des clubs anglais. Évidemment. Excellent soir à toi. On revient dans un instant, bien sûr. Fred Hermel nous attend pour évoquer la défaite du Real ce soir. Mais Paulo Breitner sort aussi avec nous pour la Bundesliga. A tout de suite.
RMC. L'Afterfoot. Nicolas Jamain.
Avec Jonathan McCarthy, avec Ludovic Obraniak. On est ensemble jusqu'à minuit. C'est le dernier quart d'heure de l'After. Messieurs, dames. Et nous accueillons les drôles de dames avec deux drôles de dames, bien sûr. Fred Hermel. Salut Fred.
Hola chicos.
Salut Fred.
Salut Fred.
Et également Paulo Breitner. Bonsoir Paulo. Ah.
Bonsoir messieurs, comment allez-vous?
Salut Paulo.
Salut Paulo.
Notre rendez-vous habituel de la fin de soirée du samedi, bien sûr. Ces hommes-là sont prêts. Ils nous attendent, ils ne sortent pas le samedi soir, rien que pour nous.
Fred, il va sortir, arrête un peu.
T'étais pas chez l'ambassadeur?
Non, Fred, 23h45, c'est pas son heure. Fred, c'est 1h30, 2h normalement.
Ouais, c'est
arrêté, Fred. Non, mais ça, c'est quand j'étais jeune, je vais avoir 50 ans, moi. C'est fini tout ça.
On n'a pas un cocktail à son nom à Madrid si on ne sort pas.
Oui, mais non, mais c'est
là que ça commence à chauffer.
Moi, je suis un vétéran.
1h30, 2h.
Moi, je suis comme Ludo dans le foot. Ludo, toi, t'es un vétéran dans le foot. Ben, moi, dans les sorties, je suis un vétéran.
Ouais, c'est sûr que Ludo, dans les sorties, c'est pas un vétéran.
Je peux te dire que j'ai joué avec les anciens du FC Metz hier. Je te confirme que je suis passé en mode. Ouais, très mal.
T'as joué contre Michael Owen, qui
très mal à l'ego.
Très mal à l'ego. Michael Owen également. Michael Owen, x2. On commence par la Bundesliga.
Il m'a avalé, Michael.
Et donc, pour avaler Ludo, vu quand on voit que c'est Ludo qui a avalé Ludo maintenant.
Voilà, Michael Owen a mangé deux Ludo. La Bundesliga d'abord, avec toi, Polo. Moi, je retiens surtout aujourd'hui la victoire du Borussia Dortmund, mal en point, qui enchaînait les nuls après un début de saison foudroyant, mais qui bat le leader. Exploit, le Borussia Mönchengladbach.
Bon, c'est un duel des Borussia, c'est un superbe match au passage avec une intensité assez impressionnante et notamment du côté de Mönchengladbach. N'oublions pas que le coach c'est Marco Rose qui est un disciple de Jürgen Klopp, hein, c'était son ancien joueur à l'époque où il entraînait à Mayence, on sait aussi travail qu'il a fait à Salzbourg. Et j'ai envie de dire que paradoxalement, il n'y a pas de défaite ce soir vraiment, parce que évidemment mathématiquement on va dire que Mönchengladbach a perdu, mais en fait ils ont fait un tel match qu'en fait cette équipe est théoriquement un candidat au titre 2019-2020 parce que ils ont tenu la trajet haute au Borussia Dortmund qui, comme tu l'as dit, sortait d'une mini crise, mais plus c'est pour moi c'est plus une crise journalistique en fait que sportive, parce qu'on dit qu'ils n'ont pas gagné depuis 3 matchs en Bundesliga, mais ils n'ont pas perdu aussi depuis 4 matchs. Et là ils viennent d'enchaîner 2 victoires et 3 nuls en fait, donc c'est un peu compliqué. Le problème c'est qu'on met Lucien Favre aujourd'hui un peu en cause, c'est complètement en Allemagne notamment, et c'est complètement fou parce que Lucien Favre, que j'adore personnellement, c'est juste excepté Thomas Tuchel, le meilleur entraîneur de l'équipe de l'histoire du Borussia Dortmund, c'est-à-dire des coachs qui sont restés le plus longtemps évidemment. Donc c'est avec un nombre de points, avec un moyenne de points de 2,1, donc c'est un peu fou ce qui se passe en ce moment. Le match était génial, évidemment le Borussia Dortmund avait un effectif plus intéressant, les gardiens sont mis en valeur, les gardiens suisses sont mis en valeur, ils sont même blessés puisque Bürki a dû sortir à la 70e minute. Sommer dans les buts de Mönchengladbach a fait un super match, son remplaçant Hitz aussi. Il y a eu 2 buts refusés malheureusement parce que c'était assez intéressant, et c'est donc la VAR, évidemment le VAR qui l'a empêché, mais honnêtement c'était un super match et voilà, ça permet à Dortmund de revenir au niveau de Bayern.
Toi, tu vois Mönchengladbach, pourquoi pas vraiment un des 2-3 concurrents pour le titre en Bundesliga.
Ah oui, alors moi j'aurais voulu.
Ils sont leaders actuellement, hein, provisoirement.
Ils sont leaders, donc ils peuvent le perdre parce que demain je suis déplacé à Hoffenheim et il y a une possibilité. Ce qui est sûr, c'est que ça rappelle ce qui s'est passé en 2006-2007. Donc c'est la victoire un petit peu surprise du VfB Stuttgart à l'époque d'Armin Fee. Donc il y avait des jeunes évidemment qui n'étaient pas mauvais, ils s'appelaient Mario Gomez, Kedira, etc. Mais on ne savait pas encore qu'ils allaient avoir le niveau évidemment qu'ils allaient obtenir. Et donc on se demande s'il ne va pas y avoir un champion surprise cette année, d'autant plus qu'encore une fois le Bayern, tout simplement.
Mais justement, match nul.
Il y a 3 équipes qui peuvent passer en tête là.
Tu peux avoir un classement incroyable.
Fribourg, il y a Schalke, Fribourg,
l'Eintracht a fait un super match vendredi contre Leverkusen, et en fait c'était la première fois que j'ai vu l'Eintracht à son niveau de l'année dernière. On a évidemment Leverkusen on attend. Il y a un problème à mon avis d'intensité, c'est pas un problème d'effectif, et je pense peut-être que le coach d'ailleurs Peter Bosch n'en a peut-être plus pour très longtemps à Leverkusen. Ce qui est sûr, c'est que Leipzig par exemple a tenu largement dominé globalement le match contre Wolfsburg à domicile, mais malheureusement Wolfsburg s'est fait le dos rond, toujours invaincu en Bundesliga, toujours invaincu toute compétition confondue. Donc ça peut nous donner un tiercé, un quarté.
C'est étonnant là.
Mais ça fait longtemps, Polo, qu'on n'avait pas vu autant d'homogénéité
avec le Borussia et la compagnie. Ouais. Vas-y, Polo.
Au jour d'aujourd'hui, il y a 2 points d'écart entre le premier et le 9e, donc on est incapable de dire ce qui va se passer. Ce qui est sûr, encore une fois, je vais juste revenir rapidement sur le Bayern Munich qui a perdu Süle au passage, hein, qui a vu, apparemment, c'est pas confirmé, mais qui aurait la même blessure que celle qu'il avait eue en 2014, c'est-à-dire qu'il est retombé suite à un duel avec l'attaquant d'Augsbourg, Niederreichner.
Deux partout, on n'a pas dit le score.
2-2. Alors attends, c'est super intéressant. Ils se prennent le but 1-1. Ils se prennent le premier but dans la première mi-temps et ils se prennent le but dans les arrêts de jeu à la 91e. C'est-à-dire qu'il se passe ce qui se passe depuis le début de la saison, excepté le match de Tottenham et notamment la deuxième mi-temps, c'est que le Bayern n'arrive pas à tous les matchs. Et encore, on a un super Lewandowski. 12e but en 8 matchs. C'est-à-dire que si on enlève Lewandowski, et j'ai envie de dire si on enlève Gnabry, je sais pas où en serait le Bayern aujourd'hui.
Oui, enfin, si tu enlèves 2 joueurs, Polo, tu vas loin quand même. Ils sont importants, ces joueurs.
Ah, mais ils sont plus que ça. C'est eux qui tiennent la baraque,
mais
en fait.
Oui, mais oui, bon, ils sont quand même 2.
Hernandez, il est coupable encore sur l'égalisation. Hein.
Le Bayern qui joue en Ligue des Champions sur le terrain d'Olympiakos à 21h. Ce sera mardi soir. Leverkusen sur la pelouse de l'Atlético de Madrid.
Il a joué où, Hernandez, Polo, dans l'axe?
Il a joué sur le côté gauche parce que justement, donc c'était Pavard en défense centrale.
Pavard en défense centrale, hein, c'est intéressant.
Pavard était en défense centrale. Il a fait reculer pour une fois Kimmich parce qu'il a décidé de mettre Javier Martinez qu'il n'avait pas appelé depuis le début de saison. Honnêtement, encore une fois, ils ont des occasions dans tous les sens pour tuer le match, ils le font pas, et qu'est-ce qu'ils font? Ils se font planter à la 91e.
Et Pavard en défense centrale, ça donnait quoi?
C'est pareil, pas réveillé. Alors depuis le début, c'est moyen quand même, Pavard, hein, lorsqu'il a été placé en défense centrale. Mais sur ce match-là, pareil, il est pas réveillé sur le premier but et puis pour rien sur le dernier. Donc c'est un peu compliqué. Mais quand tu vas à Augsbourg, qui allait pas bien, même si c'est un derby de Bavière, tu peux pas te prendre deux buts comme ça.
Merci Polo.
Ciao Polo.
Salut, on se retrouve la semaine prochaine évidemment pour la Ligue des Champions, notamment Leipzig qui recevra le Zénith mercredi à 18h55 et le Borussia face à l'Inter. Ce sera mercredi à 21h sur RMC Sport.
Un match intéressant, ça.
Fredo est avec nous. Merci d'être avec nous. Beaucoup de choses à dire. On n'a que 4 minutes 45. Oui. Je ne sais pas comment on va faire.
On va commencer tout de suite.
La défaite du Real Madrid. Fred. Défaite du Real Madrid. En soirée, là.
À l'instant.
Ouais, à l'instant. C'est terminé il y a une heure environ. Sur la pelouse de Majorque. Pourtant, il y avait l'équipe, Fred. Il y avait l'équipe.
Alors Majorque était, il y a deux ans, était en troisième division, était en deuxième division la saison dernière, et démarre cette journée, ils sont 17e, donc relégables. Et ils ont eu simplement besoin d'un petit but à la 7e minute, où tous les maux du Real se sont vus, avec un Ramez qui marche, avec un autre Odiozola qui se fait méduser par l'Ivoirien Lago Junior, et avec un Courtois qui, comme d'habitude, ne fait pas d'exploit. Enfin, ne met pas la main salvatrice qu'on attend d'un grand gardien comme
Toutes
Courtois.
Toutes les faiblesses du Real, quoi, depuis le début de saison.
C'est ça, quoi. Alors, c'est vrai que c'est tu dis, c'est quand même une équipe un peu B, puisqu'il manque pas mal de joueurs. Enfin, Benzema, Ramez Rodriguez, Isco, Ramos, Militao, Casemiro,
Marcelo.
Enfin, t'imagines, c'est un 11 qui doit normalement se balader à Majorque. Mais le Real a montré aucune envie. Il y a des joueurs qui ne peuvent pas jouer au Real. Courtois aujourd'hui n'est pas en condition de jouer au Real. Vinicius, il n'est pas en condition d'avoir un contrat avec le Real Madrid. Vinicius, il fait tout à l'envers. Alors c'est la petite star, etc. Le mec, il fait tout à l'envers. Casemiro peut pas faire le travail tout seul. Isco, il marche. Ramez, il marche.
Jovic est en difficulté aussi un peu.
Très très en difficulté. Tu as raison. Enfin, il a rien fait de bien, quoi. Il y a eu une seule véritable occasion du Real Madrid, c'est Benzema qui d'un petit tir délicat touche la transversale. Vinicius seul face au gardien, il croise trop sa frappe. Deux occasions pour un Real Madrid qui ne va pas bien et qui joue son avenir mardi soir à Istanbul contre Galatasaray. C'est ça le truc. Ce qui est inquiétant. Alors là, le Real a perdu la tête de la Liga, puisque le Barça a gagné 3-0 à Eibar.
Un point d'avance.
Donc le Real est à un point d'avance. C'est vrai que c'est hyper serré, hein, la Liga. Il y a un point.
Le Barça 19 points, Fred. Real 18, 16. Grenade, toujours là, 17. Atlético de Madrid, 16 points.
16. Atlético a fait match nul contre Valence. Le rival de Lille. Alors si tu veux, on aura l'occasion de revenir dans les prochains jours sur les problèmes du Real Madrid. Valence, le rival de Lille. C'est une équipe qui a du courage quand même. On sait tous les problèmes qu'il y a eu depuis le début de saison avec un entraîneur, c'est Lades qui lui rend service. Ils auraient même pu l'emporter sur la pelouse de l'Atlético. Ouais.
Fred, je voulais qu'on parle du Barça et de Griezmann. Oui. On a vu Griezmann étincelant, exceptionnel.
Alors c'est pas son meilleur match, parce que son meilleur match c'était contre
son doublé là,
avec les paillettes. Contre le Betis avec les paillettes, exactement. Mais il y a eu 3 buts du Barça à l'extérieur. Le premier but de Griezmann avec c'est sur un contre, mais avec un sang-froid, mais enfin vraiment, on avait l'impression qu'il jouait dans son jardin avec ses enfants. Quoi. Vraiment, c'est merveilleux, Griezmann. C'est ça, les grands joueurs. Le deuxième but, c'est lui qui donne la passe décisive.
La passe, elle est magnifique à Messi.
Et voilà. Et la troisième, c'est lui qui donne à Messi, qui donne à Suarez. Donc, enfin, on est dans un avec un Griezmann qui, on l'a vu après les matchs de l'équipe de France l'autre jour, était un peu tristouné. Là, il fait quand même une rencontre où il pèse. C'est-à-dire qu'il pèse vraiment. C'est-à-dire qu'un match, il y a 3 buts de ton équipe, tu mets un but. Tu as une passe décisive et tu as l'origine du troisième but. Voilà. Il a quand même du mental.
Et c'est ça, Fred. Aucun joueur en Ligue 1 n'est impliqué sur plus de buts qu'Antoine Griezmann cette saison. 4 buts, 3 passes décisives en 7 matchs.
Exactement. Voilà. Exactement.
Tout simplement.
Qu'on soit bien clair, ça reste un joueur d'une classe extrême. Pas au top, c'est un joueur qui est un joueur de classe.
Et Dieu sait si sa situation n'est pas facile. Mais c'est comme ça qu'il va peut-être petit à petit se faire intégrer.
Et la frustration vient du fait qu'on connaît son potentiel qui est immense. C'est tout.
Fred, un mot sur une des pépites de la Liga, João Félix, Atlético de Madrid sorti avec une blessure a priori. Une très grosse entorse.
Très grosse entorse, voire pire. Cheville, ouais.
On saura plus tard.
On va voir. Oui, parce qu'il faut faire les examens demain ou après-demain quand la cheville aura dégonflé. Ce qui est clair, c'est qu'il ne sera pas là contre le Bayern Leverkusen mardi soir.
voilà, c'est, mais ça peut être, faut voir s'il n'y a pas un ligament de la cheville touché. En tout cas, il s'est vraiment, il s'est tordu la cheville d'une manière terrible, et après, il a essayé de simplement poser le pied et il criait de douleur. Donc, c'est quand même au mieux une très, très, très grosse entorse, et ça, c'est mauvais pour l'Atlético, parce que c'est quand même celui qui est là au départ pour remplacer Griezmann, même s'il y a encore beaucoup, beaucoup de travail pour faire de cette petite pépite du football portugais et désormais espagnol, l'équivalent d'un Antoine Griezmann qui, moi, je suis personnellement très content pour lui, et on termine là-dessus à
faire. On est tous contents, frère.
Un match comme il doit le faire. Exactement. Et Griezmann continuer à bosser, surtout ne pas parler. Enfin, ne pas parler, ne pas se plaindre, et c'est pas son genre. Et peut-être qu'au fur et à mesure, en donnant des bons ballons à Messi, Messi.
C'est comme ça que ça marche.
Je rappelle le programme pour tes clubs, Ligue des Champions, le Real, mardi soir, 21h, à Galatasaray, attention. Atlético face à Leverkusen, mardi à 18h55. Et puis, le Barça, 21h, sur la pelouse du Slavia Prague, mercredi. Bon, et également Valence, face à Lille, donc, au Stade Pierre Mauroy, à 21h. Merci, Fred.
Ciao,
Fred.
Adios, Nikos.
J'ai reçu ton bouquin, je suis très content. Je vais le dévorer. Zidane. Merci, Fred.
Bisous.
Enfin, ciao, bye. Salut, merci, messieurs.
Merci, Nico.
À la semaine prochaine.
Tu
as été brillant ce soir.
T'as comment
j'ai reçu plein de messages de tous les chefs du groupe. Non, c'est pas vrai.
Moi.
Il me regarde, Jonathan, il y croyait.
Moi en particulier.
Pas du tout.
Très bonne soirée à tous. Merci, Arthur Robert en régie et à Nino Torres à la réalisation.
Bye bye. Torres,
quel talent, Nico. Quel talent.
RMC. L'Afterfoot. Get the brands you love at littlewoods.com. Whether you use it for studying or streaming, find the Asus Chromebook 11.6-inch in grey for just $199.99. All with inclusive delivery and free returns. Hurry, offer ends 25th of October. Own it. Shop now at littlewoods.com.